Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office, le podcast. À mes côtés ce soir, ou alors l'après-midi, tout dépend à l'heure où vous écoutez, le seul, l'unique, Mr. Jonath.
Salut à tous.
Comment vas-tu mon petit Jonath?
Ça va très bien, et toi?
Ah, ça va, ça va. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes que deux. L'incroyable Mr. René Bunny n'est pas à la présentation de l'émission, mais c'est moi, Marty, qui serai votre hôte ce soir. Alors bon, ça fait un moment aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles. Pourquoi un silence aussi long? Pourquoi Bunny n'est pas là? Alors non, on n'a pas assassiné Bunny et passé notre camp à faire disparaître le corps. C'est juste que Bunny, en ce moment, n'est pas disponible. Et pour le retard, j'avoue que c'est de ma faute. J'étais en déménagement et du coup, première émission que j'enregistre dans mon nouvel appartement. Alors, pas encore dans mon bureau, là, je suis dans mon salon. Donc, je m'excuse s'il y a de l'écho ou une mauvaise prise de son. On essaiera d'améliorer ça en post-prod. Mais donc voilà, même si c'est avec un peu beaucoup de retard, on est très, très heureux de vous retrouver pour parler avec vous des dernières actus comics, les sorties marquantes, parce que mine de rien, alors la dernière émission on l'a enregistrée quand? Tout début septembre il me semble, non? Fin août,
début septembre, ouais.
Ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a un beau morceau. Alors tout de suite, on annonce, même si l'émission est enregistrée même plus tard que prévu, et qu'en théorie, il devrait y avoir plus de news à traiter que d'habitude, surtout qu'il y a eu la New York Comic Con, l'émission, elle sera sans doute plus courte. Enfin, je dis ça, je nous connais, ça arrive, on risque de rallonger, mais pas mal de news par rapport à la New York Comic Con se retrouveront dans les sollicitations de janvier, qu'on traitera le mois prochain. On en traitera certaines, mais pas toutes. Et donc, sans plus attendre, Jonath, ta rubrique préférée, la news marquante du mois.
Comme tous les mois, les news marquantes du mois, je n'en ai pas. Enfin, je suis allé voir aussi récemment Venom au cinéma.
Ah.
C'est assez marquant dans un sens. Je pense qu'on vous fera peut-être un comics office watching sur le film. On verra dans les jours qui viennent. Hein. Ça dépend des disponibilités des uns et des autres. Mais ce que je peux dire sommairement, c'est vrai qu'il y a eu un gros backlash entre guillemets sur la qualité du film. Avec des comparaisons assez osées, je dois dire, dans le mauvais sens du terme. Sincèrement, c'est clairement pas un bon film, mais on est quand même loin de Elektra, Catwoman, tout ça, faut pas déconner non plus. C'est pas pire, pas mieux que certains films du MCU, quoi.
D'accord.
Donc, voilà, faut pas non plus exagérer. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas dans ce film, très clairement. Mais après, aller dire si tu veux que c'est la pire merde qu'on ait jamais vue, tu vois, que c'est une espèce de spawn bis, non. Non, faut pas exagérer, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Ah, d'ailleurs, en parlant de spawn, il me semble que McFarlane a récemment parlé de l'adaptation en cours. Visiblement, il en chie pas mal, mais il tient bon. Alors, de mon côté, j'ai pas encore été voir Venom. Je ne manquerai pas de mes prochains congés pour y aller, et puis on pourra enregistrer une petite émission dans la foulée. Je sais pas si ce sera une bonne émission, mais...
Je pense que ce sera une émission où on va se marrer.
Bon, alors tu me donnes envie. Non, mais mine de rien, les films clivants, ou tout du moins les films sur lesquels on a des choses à dire, même quand c'est mauvais, c'est toujours plus drôle à faire qu'une émission où, même si le film nous a plu, on n'a rien à dire, quoi.
Ah, celui-là, il y aura des choses à dire, ouais.
Oh là là. On est encore parti pour faire 3 heures. Oh là là.
Non.
Bon, pour continuer sur ta lancée, je vais aussi profiter de la news marquante pour parler audiovisuel, vu que dans les actus, nous, on reste vraiment sur le comics. C'est que, alors certains se sont peut-être fait du mal physiquement, à force de se taper le visage avec la main, ou juste moralement devant Venom. Moi, j'ai quand même fait ma part en regardant le premier épisode de Titan.
Ah, ben oui.
Ah, tu l'as vu aussi d'ailleurs,
je crois.
Oui,
je l'ai vu, ouais.
Alors, est-ce que Venom, c'est mieux ou pire que Titan?
C'est dur de comparer. C'est un film, l'autre, c'est un premier épisode de série.
Ouais, c'est un peu casse-gueule comme question.
Okay, ouais, dans les deux sens, quoi. Je dirais, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel, c'est peut-être Titan.
Voilà. Ah, ouais, après, quand t'es une série, et puis surtout Titan, vu que c'est une série diffusée avant tout sur des plateformes numériques, Titan, du coup, est peut-être aussi moins inféodé aux règles de la CW et de toutes les chaînes qui ont mis des options sur les séries d'ici. Et ça se sent vraiment dans les choix de scénario, dans la violence, hein, qu'elle soit visuelle ou sonore aussi. Il y en a quelques gros mots. Le fameux fuck Batman qui a fait rire beaucoup de monde dans la bande-annonce et qui d'ailleurs a l'air toujours aussi bête dans la série. Mais globalement, je vais dire ce que beaucoup ont dit et ce que tu as un peu dit aussi pour Venom, c'est que ben, c'est pas aussi horrible que ce qui avait été
Non.
annoncé. Ça se laisse regarder. Et voilà, enfin, même, alors moi je l'ai regardé en me disant, si ça ne suit pas les comics, je m'en fous, hein, si c'est une autre itération, de toute façon, les séries télé, voilà, c'est une autre lecture. En même temps, si à chaque fois on a la même lecture des personnages, des adaptations, c'est un peu embêtant aussi. Et ouais, il y a du potentiel, les acteurs sont clairement pas mauvais. On a vu bien, bien, bien pire. On attendra de voir, je crois que c'est une saison assez courte, ça va être vraiment une histoire sur le long cours à suivre d'épisode en épisode. Donc bon, je vais lui donner sa chance. Je vais y retourner. Je ne suis pas non plus super mordu, mais comme j'ai un peu laissé tomber la plupart des autres séries super-héroïques, ben, je vais peut-être suivre celle-là cette année.
Ouais, moi je trouve que le premier épisode était pas inintéressant. Bon, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se comment on appelle ça, à trop se lâcher simplement sur les visuels, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, c'est
Qui passe
pas.
d'ailleurs très bien une fois qu'on est dans la série. Bon, là, on n'a pas encore
Oui,
vu tous les héros, mais.
quand même comment dirais-je, le précédent visuel de Captain America pour Avengers numéro 1, où tout le monde s'était élevé contre ce costume soi-disant de suppositoire, et puis finalement on voyait très bien que
Qui passait très bien dans le film, ouais.
voilà. Et puis de toute façon c'est un scénar, enfin ce qui compte c'est plus le scénario qu'autre chose, hein,
Oui,
que
oui, oui. Et puis le
savoir
costume de
si...
Robin, ça reste objectivement le meilleur Robin live qu'on ait eu jusque-là.
Franchement, enfin, j'ai pas trop pigé non plus pourquoi il y avait ce truc autour du costume de Robin, parce que très sincèrement, il passe très bien, quoi. Et en plus, je crois que ça a été confirmé par alors je crois que c'est Geoff Johns qui l'a confirmé, il me semble, que Titan justement servira à avoir la transition de Robin vers Nightwing. Donc
Ah, sans s'en douter, on serait même déçu que ça
voilà.
n'arrive pas.
Non, moi je suis pas affolé sur ce premier épisode, hein.
Oui. Et puis si on suit un peu les actus, il y a que ce soit des personnages qui vont être de manière récurrente ou juste des guests, il y a d'autres persos qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les adaptations qui vont venir. Donc rien que pour ça, c'est mon côté fanboy, mais rien que pour ça, je vais continuer à lui donner sa chance.
Mais même, bon, tu vois, alors on peut dire ce qu'on veut sur Starfire, mais par exemple Raven, je trouve que c'est pas idiot, quoi, la manière dont
Ouais.
elle a été introduite et la manière dont elle est caractérisée, quoi.
Oui, c'est même plutôt logique. C'est ce à quoi je m'attendais en ayant une Raven de nos jours. Ça me fait un peu penser à la Raven des films animés d'ici. Je sais pas si tu les avais vus, là, les films. Alors, je sais plus, c'était. Ouais, ils appelaient Teen Titans, je crois. Il y en a eu deux ou trois. Avec Nightwing, Starfire. Il y a Damian, là, par contre, en Robin. Tu les as pas vus, non?
Non.
Il y en a eu deux, je crois, et il y en a un avec Raven. Elle est un peu caractérisée de ce genre-là. Enfin bon, peut-être qu'on vous en reparlera à l'occasion. Si vraiment ça vous intéresse, Titan, pourquoi pas. Et sans plus attendre, on va passer au gros. Alors pas au gros, là c'est l'apéritif vu que c'est la VF. Et bon, Jonath, vu que tu n'es pas un grand grand fan de VF, enfin tout du moins toi t'es pas lecteur VF, donc je vais pas non plus déblatérer 10 ans dessus, on va aller assez rapidement, surtout qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà annoncées, les émissions précédentes qui sortent ce mois-ci. Déjà chez Panini, on va évacuer tout de suite la déferlante des omnibus Absolute et compagnie. On en a parlé durant les deux dernières émissions, donc reportez-vous-y. Il y a quand même quelques sorties intéressantes. À côté de cela, bon, je rappelle juste, on a pour les omnibus, on a ben, l'omnibus Annihilation, on a un coffret avec des Event X-Men, on a le premier omnibus Star Wars qui reprend la série le début, je crois que c'est les 25 épisodes de la série de Jason Aaron. On a le fameux Absolute sur la saga du Phénix, qui lui me fait bien de l'œil, c'est un bel objet de collection. Où on a encore, alors là c'est un omnibus, je crois, le complexe du Messie. On en a bien parlé il y a une émission ou deux. Et donc chez Marvel, de manière générale, bon, il y a pas mal de suites de séries, des tomes 2, des tomes 5, on va pas revenir trop sur le détail. On rappelle qu'il y a l'intégrale de Web of Spider-Man dont on a parlé cet été qui sort ce mois-ci. Qu'est-ce qui est sorti d'autre ce mois-ci? On a.
Le tome 1 de X-Men par Frank Morrison et des New X-Men par Morrison et Quitely.
Oui, Frank Whiteley et Grant Morrison, tu les avais fusionnés les pauvres. Oui, ça, si vous avez jamais lu, c'est à lire, hein, vraiment, à lire absolu. Je
Oui,
vois qu'il y a une
à lire la
adaptation.
première et la dernière page, tout le reste on s'en fout.
Ah, c'est génial, j'ai commencé par ça, arrête, c'est trop trop bon. Et
Ah,
même
bah ça
si.
explique tout.
Et même si je n'ai pas commencé par ça, je retrouvais ça trop bon. On a un album Yellow Submarine, donc une
Des
adaptation
Beatles.
BD des Beatles, ouais. Je suis assez curieux de voir ce que c'est. Bon, ouais, sinon voilà, on a pas mal de
Le
suites.
chant du phénix aussi. Bon, alors ça.
Oui, alors, oh là là, les trucs de Greg Pak, ouais. Les
Ouais.
deux mini-séries de Greg Pak. La première était sympa.
Oui.
Franchement, Hensong, c'était
Je
sympa.
sens que c'était bien, ouais.
Ouais, puis ça bouchait les trous à l'époque parce que vous aviez Astonishing X-Men qui sortait pas. Et comme c'était à peu près la même équipe par rapport aux membres qui sont dans la mini-série, ça bouchait les trous. Par contre, la deuxième, Warsong, en plus dessinée par Tyler Kirkham, c'est dégueulasse. Pour la première, par Greg Land, moi je suis pas fan, donc c'est pas top top non plus, mais c'est vraiment à éviter, quoi. D'ailleurs, tout laissait à penser qu'il y en aurait peut-être une troisième de mini-série, il n'y en a jamais eu, bon, tant mieux, c'était pas top top. Et donc, passons tout de suite à Urban. Alors, chez eux, grosse sortie du mois, c'est évidemment le Batman White Knight, écrit et dessiné par Sean Murphy. Alors, est-ce que tu l'as lu, toi, ou pas?
Je l'ai lu, très franchement, ouais, le concept de départ était pas idiot, mais honnêtement, c'est pas indispensable, quoi. Très
D'accord.
franchement, oui, il y a les dessins de Sean Murphy, mais bon,
D'accord.
c'est chou, c'est un S-word, voilà.
Oui, d'ailleurs, il y a en VO, j'anticipe déjà, il y a déjà la suite qui sortira bientôt, il me semble, ou tout du moins qui a été annoncée. D'ailleurs, officiellement, Batman White Knight rejoint le label, c'est quoi, c'est le Black Label de DC, donc voilà, cette espèce de label Elseworld. Donc voilà, surtout White Knight, ce qui se passe, c'est que Sean Murphy sera au Comic-Con. Donc c'est un peu aussi logique qu'ils nous sortent ça ce mois-ci. Et alors White Knight, il y en a pour tout le monde là. Il y a une édition en noir et blanc, une édition en couleur. Pour l'édition en couleur, vous avez deux couvertures différentes. Il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Vous pouvez là, faites vos choix, quoi. On peut aussi noter qu'il y a l'adaptation en comics d'American Gods, donc roman de Neil Gaiman, qui a eu droit à une adaptation en comics et qui, depuis un an ou deux, a droit à une adaptation en série télé que je n'ai honteusement toujours pas regardée. On a quoi? On a aussi la suite de Batman et les Tortues Ninja, donc tome 2, toujours écrit par James Tynion Ford. Ouais, c'était déjà lui qui avait écrit le premier, si je dis pas de bêtises. Oui, on va dire ça, vu que tu ne me corriges pas.
J'ai pas lu ces choses-là, donc
D'accord, ouais. Et Freddy E. Williams 2 au dessin. Et oh, bah, ça tombe bien, il est aussi au Comic-Con. Voilà, des bouquins à vous faire dédicacer par leurs auteurs fin octobre. On a quoi d'autre? On a aussi, alors là, ça m'intéresse pas mal, Superman New Metropolis tome 1. C'est des épisodes de Ed McGuinness au dessin et au scénario. On a Jeff Loeb et Joe Kelly. Alors, je sais pas si ce sont des épisodes qui avaient déjà été sortis de leur série en kiosque ou pas, mais clairement, c'est des choses dont j'entends dire beaucoup de bien depuis que je lis des comics. C'est ce qui se faisait de mieux sur Superman au début des années 2000, a priori. Donc voilà, je vous invite à y jeter un œil si vous aimez bien Superman. Toi, t'avais lu ça ou non, pas du tout?
non.
D'accord. Et voilà, donc en gros, pour la sélection, la petite sélection Urban Comics. Alors, petite news d'Urban Comics qui est tombée il y a pas très longtemps. Darknet 3, donc la fameuse mini-série qui fait suite aux deux mini-séries de Frank Miller, où Frank Miller est quand même pas mal épaulé par Azzarello au scénario. Darknet 3, qui était sorti chez Urban en plusieurs volumes, va sortir, comme on s'y attendait, en janvier, en édition intégrale. Et on aura également à côté un livre qui reprendra toutes les couvertures variantes de Darknet 3. Donc les deux bouquins sortiront, si je dis pas de bêtises, le 25 janvier prochain. Donc voilà, si vous voulez, si comme moi vous avez attendu l'édition intégrale, ben vous serez enfin récompensé en janvier. Enfin récompensé, vu les échos que j'ai eus sur cette mini-série que je me gardais de côté pour le jour où elle sort en intégrale, je sais pas si on le sera vraiment. Mais voilà, sachez-le si vous attendez ça. Et sinon, quoi d'autre? Alors du côté de chez Bliss, on avait déjà parlé de Urgence niveau 3. Donc, nouveau bouquin qui n'a absolument rien à voir avec Valiant, qui sort chez Bliss Comics, avec l'auteur et le dessinateur, si je dis pas de bêtises, qui seront là au Comic-Con. Alors tiens, le point Comic-Con, je vais un peu le mélanger là à toutes ces annonces, puisque ça y est, le programme a priori complet des auteurs est tombé. Et par exemple, pour Bliss Comics, on aura vraiment une grosse, 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 grosse sélection de dessinateurs affiliés à Valiant qui viendront. Évidemment, c'est là où je retrouve pas mon lien, donc forcément, j'essaie de meubler. Ne m'aide surtout pas, Jonathan.
Ah non, mais je te laisse te débrouiller comme un grand. Je pense que tu as largement de quoi pouvoir trouver ce lien où il faut, il n'y a pas de souci.
Oui, bah déjà, je sais que Clayton Henry sera là. Clayton Henry qui a dessiné du Archer and Armstrong avec une ressortie de l'intégrale. Ça avait fait un peu de bruit parce qu'il y aura un épisode qui n'était pas à la base dans l'intégrale qui sera dedans. Et a priori, je crois que Bliss a annoncé qu'il le sortirait de manière dématérialisée. Mais du coup, bon, les gens qui, comme. Alors, moi, j'ai pas râlé parce que, bon, voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais pas mal de gens qui avaient déjà pris l'intégrale ont râlé. Donc, Clayton Henry qui a aussi dessiné Savage récemment. On aura Trevor Ersine. Pat Mascioni, Mikko Suayan et aussi Thomas Jorello, le dessinateur de la nouvelle série XO Manowar, dont le, je crois que c'est le tome 2, sort ce mois-ci. Si je dis pas de bêtises, ouais, le tome 2. Donc voilà, beau programme. Il y a aussi Eternity, quatrième mini-série de tout ce que Matt Cain fait sur Divinity et ses dérivés. Donc voilà, mini-série complète, mais qui fait suite aux trois mini-séries Divinity qui sort ce mois-ci. Et sinon, bon, globalement, tout ce qui est Delcourt, Glénat, c'est quand même pas mal de suites de séries déjà en cours. On note quand même que chez Glénat, ils étendent toute la gamme Archie, avec le premier tome de Betty et Veronica et le premier tome de Jughead. Bon, j'ironise, mais ça se trouve, c'est pas mal, hein, c'est juste qu'on n'est pas trop la cible. Tandis que chez iComics, on avait déjà parlé, le tome 1 de Tortue Ninja classique, donc les premiers épisodes sortent. Énorme tome à 39,90 €, mais qui reprend des épisodes
Oui.
historiques, souvent introuvables, si ce n'est inédits chez nous. Et le tome 4 aussi de la série régulière. Et puis bon, tome 6 d'ElfQuest chez Snorgle, ça je tenais à le préciser aussi, parce que bah, ElfQuest, c'est la vie, allez-y, c'est vraiment super, super bon. Bon, alors pour l'AVF, on en a à peu près terminé. Alors on rappelle juste que il y a bientôt le Comic-Con. Normalement, cet épisode sera quand même sorti avant. Le Comic-Con à Paris qui se tient donc le 26, 27, 28 octobre prochain. Alors moi, a priori, j'y serai sur le vendredi et sans doute aussi le samedi. Soit le samedi, soit le dimanche, mais plutôt le samedi. Donc voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à me faire coucou. Hein. Ça, la programmation complète, on va pas la détailler là, mais elle est vraiment alléchante. Il y a des conférences faites par la plupart des éditeurs, mais aussi par certains invités. On a quand même Frank Miller ou Neil Adams qui sont là. C'est pas tous les jours qu'ils sont à Paris. Je pense que ça vaut le coup d'y aller. Hein. Vraiment, moi je suis assez ravi niveau artiste et même scénariste comics. On a quand même de quoi se mettre sous la dent. Vraiment, je suis assez enthousiaste pour cette édition. Avec quelques derniers noms qui sont tombés et non des moindres, Jewel Jones qui accompagnera Freddie Williams 2 sur le stand d'Urban Comics, il y a Terry Dodson qui sera invité, Olivier Coipel également, le dessinateur français qui a explosé chez Marvel il y a une à 10, même presque 15 ans maintenant, avec, ouais,
15
avec
ans, ouais, 15
House of
ans.
M, notamment entre autres, il a fait du X-Men, du Avengers.
Je me demande si t'es pas déjà sur les Avengers avec Kirby
Non, c'était
ou Geoff Jones,
peut-être
je crois.
après, peut-être avec. Oui, Geoff Jones, oui, Geoff Jones.
Il est là depuis un moment, ouais.
Un artiste un peu trop rare.
Il est quand même, depuis Avengers versus X-Men, il se fait quand même très
Oui.
rare, quoi. Ça fait quand même 6 ans. On le voyait très souvent quand il y avait un event Marvel pour faire les grands épisodes, quoi, tu vois.
Ouais. Profitez-en si vous le croisez, un artiste français, donc vous pourrez vraiment discuter avec lui. Si pour vous, par rapport aux anglo-saxons, il y a la barrière de la langue, bah là, profitez-en, vous pourrez y aller. Et je note encore un autre français, Joffo, qui sera invité, et également l'anglais Barry Kitson, un habitué des conventions françaises, hein, il est souvent à Lille ou ailleurs, mais artiste très talentueux et très sympathique, profitez-en. Donc voilà, petit tour vraiment rapide de l'AVF qui va nous permettre de passer à la VO. Je me suis dit, allez, tiens, Bunny n'est pas là, cassons les codes, faisons les fous, plutôt que de commencer par DC, et si on commençait par Marvel, avec les sollicitations de décembre. Alors, mon petit Jonathan, là, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que ça te dirait de commencer à nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé, ou tout du moins peut-être interloqué, dans les sollicitations de décembre?
Rien du tout.
Ah, merveilleux!
Ah, on s'y attendait pas, tu vois. Non, alors plus sérieusement, il y a effectivement le retour de Super Spider-Man
Oui, bien sûr.
via donc un tie-in à Spider-Geddon. avec Christos Gage sur le scénario et Mike Hosorn au dessin. Donc retour d'un perso quand même que j'ai, enfin une vision du perso que j'ai. Bah, que j'ai plutôt apprécié quoi tout simplement c'était ouais c'était ouais j'aimais beaucoup quoi.
Et est-ce que tu as lu du coup le one shot qui est sorti là ou pas?
Spider-Geddon, non je l'ai pas lu
Non, pas Spider-Geddon, le Supérieur Octopus, là, ce qui devait être le nom de la série, et finalement ils ont décidé d'appeler ça Supérieur Spider-Man.
Ah je sais pas c'est sorti ces dernières semaines?
Oui.
J'ai dû le rater voilà alors
Bah
bon.
écoute, moi j'ai oublié de le mettre dans le conducteur, mais je l'avais lu, et en gros c'est une introduction à Supérieur Spider-Man 1, quoi. C'est Octopus, vraiment, là j'en parle en 10 secondes. Ne le lisez que si vous voulez lire Supérieur Spider-Man, hein, sinon vraiment le one-shot n'a pas vraiment d'intérêt. Mais c'est une petite intro sympa pour se remettre dans le bar pour le retour de cette série que j'attends aussi. Donc j'en serai.
Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter? On a X-Men The Exterminated numéro 1,
Ouais.
donc 40 pages, 4,99$, donc qui sera écrit par Zach Thompson et Lonnie Nadler, et Chris Claremont aussi, donc avec des dessins de Neil Edwards et plusieurs personnes apparemment, c'est Neil Edwards and more.
Ouais.
Et donc ce serait l'aftermath de d'Extermination, donc le. Je sais pas si je peux dire le crossover, l'event, presque dans
Ouais, oui.
l'univers X, enfin la franchise X-Men en soi.
Ouais, c'est une mini-série événementielle, quoi.
C'est
C'est
ça, ouais.
Et c'est un côté crossover parce que tout le monde est invité à la fête.
Et donc du coup, bah, ça revient un petit peu sur donc l'aftermath de cet event-là, et notamment, bah, voilà, le, comment dire, la mort,
T'as certains personnages, on va peut-être pas. Je sais plus si on l'avait spoilé ou pas la dernière fois.
De toute façon, le problème, c'est que bon, on va parler, pour tout vous dire, on va parler du numéro 3 qui est
Oui,
sorti
bon.
donc au début du mois.
Ouais.
Et effectivement, si on parle du numéro 3, de toute façon, on est obligé de spoiler le.
Oui, bon, de toute façon, c'est à la fin du numéro 1 et tout est
Ouais.
basé là-dessus, donc.
Donc, si vous voulez pas, encore une fois, si vous voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'avez pas découvert cet event, enfin, ça vous intéressait pas de prime abord, donc voilà, vous ne voulez pas être spoilé, bah. Avancer un petit peu dans le podcast, j'ai envie de dire. Bah sinon, bah pour ceux qui, en tout cas, ont lu le premier numéro, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la personne en question qui est morte, c'est Cable, tout simplement.
Oh,
Encore,
encore!
encore, oui, Cable
Ça
qui.
fait 3 ou 4 fois en 15 ans, là,
Bah,
c'est.
il est mort à la fin de Second Coming, il est mort à la fin de Avenger Extinction.
Il est pas mort plus ou moins une ou deux fois dans la série Cable and Deadpool aussi.
Oui,
Enfin,
bah.
il était porté disparu, rajeuni, enfin.
Il avait aussi bien douillé contre Magneto dans Fatal Attraction.
Ouais, ça remonte, ça.
Ça remonte, ouais, donc il y a.
Tu sais quoi, c'est raccord parce que je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier qu'est sorti l'intégrale où il y a Fatal Attraction dedans chez Panini. Donc tu es très raccord là, Jonathan, bravo.
C'est, je crois, les 25 ans ou même pas loin en fait de Fatal Attraction.
Ouais, bah oui, 93, ouais. Ou 94, j'ai un doute, oui, bon bref.
Parce que bon, il se fait quand même, on parle beaucoup de Magneto qui retire l'adamantium de Wolverine, mais Cable, il se fait quand même, avant ça, il se fait quand même réduire en poussière par le bon Eric, hein, donc.
C'est vrai que ouais, on parle de Wolverine ou de Magneto, où tout le monde est choqué que Charles lobotomise Magneto, alors que vu ce qui se passe, j'ai envie de dire, bah, tant mieux,
Oui.
quoi, vaut mieux
Oui, il était temps
peut-être.
d'agir, hein, parce que l'autre sur son astéroïde là, il avait commencé un petit peu à sérieusement péter un boulon là.
Oui. Ouais, donc voilà, ouais, ça célèbre la mort. Enfin, non, pardon. Ce numéro célèbre le
Voilà.
retour d'un autre personnage, mais pleure la mort de Cable. Mais c'est pas grave, on a des câbles de secours de côté, n'est-ce pas?
Oui, bah oui. Et du coup, oui. Alors, je sais pas si tu veux transitionner vers la review du numéro ou c'est ou.
Voilà, parce que je vois que Claremont a écrit
Ah oui.
un numéro sur le passé d'un perso qui, lui, n'est pas mort. Il est revenu depuis un moment, ce perso-là.
Alors là, faut que tu me dises où on est parce que.
Ben, Nate Gray.
Ah
T'appelles
oui.
Nathan Summers, visiblement, maintenant, si on en croit la sollicitation.
Oui, plus Nathan Gray.
Ouais.
Bon, pourquoi pas. Oui, donc X-Men. X-Men qui va faire son retour. Enfin, qui déjà. Bon, qui a annoncé un grand pop plus pour le mois de janvier. Hein, donc, avec une nouvelle série qui va. qui va reprendre. Et là, donc je vois pas où, dès le mois de décembre, il revient. Enfin, je.
Bah, il revient, oui, dans la sollicitation, on nous dit que Claremont va écrire une histoire sur le passé de Nathan Summers,
Là,
donc.
ouais, voilà, c'est ça. Donc, oui, pour introduire son retour, alors Nathan Summers, hein, donc du coup, ah, mais t'es sûr, parce que Nathan Summers, je pense plutôt que c'est Cable, hein, tout simplement.
Ah oui,
C'est pour
mais
ça.
oui.
L'autre, c'est Night Grey,
Oh
c'est
là
pour ça,
là
donc
là
c'est.
là. Bon, je vais faire mon bunny. Oh là là, les experts comics.
Expert Comics,
Oui,
ouais,
en
bon,
plus.
de toute façon, si vous savez qu'on était des experts, hein, depuis le premier numéro, vous êtes bien douté qu'on était
Oui,
quand même des
oui,
pieds nickelés, donc
oui, oui,
hein, on vous prend pas en traître.
oui. Le pire, c'est que je suis extermination et tout, quoi.
Oui, c'est ça, je me dis, mais non, mais après, peut-être que tu vois, il peut y avoir un backup de Claremont pour commencer à réintroduire Night Grey, mais non, non,
Ouais.
c'est Nathan Summers, c'est. Bon, pourquoi.
Et puis bon, on peut être content, ils sortent Papy de la Naphtaline. Hein. Après avoir fait écrire à Papy Chris un numéro le mois dernier, on a droit à un autre numéro de Chris. Bon,
C'est-à-dire
pour
que
ça.
l'histoire a montré que Claremont était bien pour mettre les plots en place, mais fallait pas lui laisser les finir, quoi.
Oui, voilà. Ouais. Disons que maintenant, c'est un peu l'habitude de le ressortir dès qu'il y a un anniversaire ou un numéro spécial, mais c'est tout, quoi.
C'est ça.
Par contre, avant le retour d'X-Man, on a X-Force qui revient et qui justement découle d'Extermination. Avec équipe très classique, hein, Domino, Cannonball,
Oui.
Shatterstar, Boom Boom et Warpass.
Boum boum.
Oui, Boom Boom, oui.
Et avec une cover de enfin, je crois que c'est Rob Liefeld qui est.
Ah bien sûr, ah bah oui, la robe, avec quelle question? Forcément.
Formidable.
Voilà. Bon, sinon, à part ça, on a aussi une. Bon, j'imagine que c'est une mini-série sur. Mais c'est pas dit. Sur Killmonger. Alors, j'étais passé totalement à côté de ça. Je suis absolument pas surpris, hein, là,
De
vraiment.
Brian Hill, ouais.
C'était attendu.
Surtout que, bon, alors je pense pas que c'est lié, mais apparemment, du côté du MCU, enfin du Disney, ils vont lancer une campagne pour que Black Panther soit présent aux Oscars donc
Ouais.
2019, parce qu'il était sorti trop tard l'an dernier pour prétendre à ceux de 2018. Donc peut-être que, bon, ça n'a sans doute rien à voir, mais cette mini-série Killmonger, en plus, qui reprend vraiment les designs du perso interprété par
Ah oui, alors
Michael B.
là.
Jordan, peut-être que bon, c'est pas anodin.
En plus, on nous parle de son passé, on lui a tout pris, il était dans les rues, puis
Ouais,
il va avancer, il va affronter Ulysse Klaue. Enfin,
ouais,
vraiment,
ils vont vous
là.
faire pleurer dans les chaumières aussi.
Non, mais vraiment, ils font des clins d'œil au film, quoi.
C'est ça.
Par contre, il y a d'autres retours, moi, qui m'enchantent pas mal, c'est les différents one-shots consacrés aux Defenders, chapeautés par Alan Wing, donc qui écrit actuellement Hulk. C'est pas lui qui écrit tous les one-shots, il écrit juste le one-shot sur Hulk et celui sur les Defenders. Mais donc, les Defenders classiques, donc Hulk, Namor, le Surfeur et Doctor Strange, vont revenir. Fini les Defenders version Netflix, place aux Defenders plus classiques. Donc voilà, retour annoncé de la série Defenders. Si c'est écrit par Alan Wing, clairement j'irai, parce que c'est quelqu'un qui a montré qu'il maîtrisait déjà bien l'univers Marvel, ses concepts tarés. Et s'il y a bien une série dans l'univers Marvel qui a toujours joué avec les concepts cosmiques, magiques, bizarres, avec les personnages de 13e zone, bah, c'est bien la série Defenders, hein. Donc vraiment, bonne pioche s'ils sont décidés à relancer cette série avec Alan Wing. D'ailleurs, tu veux en parler maintenant d'Immortal Hulk ou tu veux le garder pour tout à l'heure?
Écoute, si tu veux en parler tout de suite, ou je sais pas, peut-être que tu préférais finir les sollicitations, c'est comme tu veux. Hein,
Non, vas-y, 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 ça fera une petite pause dans les sollicitations.
Immortal Hulk numéro 7. Alors, comme on a, enfin, de toute façon, comme on a, on va dire qu'on a loupé, hein, entre guillemets, quelques émissions, enfin, quelques émissions, non, plutôt quelques numéros, voilà, ça que je veux dire. Donc, par rapport aux précédentes reviews qu'on vous a fait de Immortal Hulk, en fait, je vais peut-être plus, voilà, vous résumer le. En gros, la fin un petit peu de cet arc, quoi, hein, de ce premier arc, on va dire. Alors, c'est toujours écrit effectivement par Alan Wing, avec des dessins de Joe Bennett. Et en fait, dans les précédents numéros, on a eu un petit peu Hulk qui était aux prises avec Sasquatch. Et alors, bon, ça nous a rappelé un petit peu l'histoire, enfin, de. Ouais, d'amitié un petit peu entre Bruce Banner Bah, l'avatar de Sasquatch.
Walter Langowski.
C'est cela.
D'ailleurs, alors souvent on se rappelle que Sasquatch il doit ses pouvoirs à des divinités du Grand Nord, mais à la base il est lié à Hulk parce que je crois qu'il a été investi par une grande bête, c'est comme ça qu'on les appelle, ces divinités, parce qu'il faisait des expériences sur les rayons gamma, c'est ça, non?
C'est ça. Ben là, en fait, on a carrément. Enfin, alors, je sais pas si c'est une retcon du coup, parce que je me souviens pas de la genèse de Sasquatch. Mais en fait, je crois que c'est dans le numéro 4 ou 5, peu importe. On a tout un épisode où on nous remet en situation avec la relation d'amitié entre Bruce et Wade. Je crois que c'est ça son prénom. Donc, comment c'est le prénom de Sasquatch?
Walter.
Walter, c'est ça.
Alors peut-être qu'il appelle Walt, mais c'est Walter.
Voilà, et donc les deux, si tu veux, qui étaient ensemble à la fac et Walter qui finit, hein, qui avait un petit peu le côté comment dire, footballeur américain, tu vois, de la fac, tu vois, sportif un petit peu entre les deux, alors que Bruce était plus le rat de laboratoire. Et puis finalement, Walter, bon, décide de tester sur lui les rayons gamma, et c'est comme ça que il récupère ses pouvoirs de Sasquatch. Donc voilà, les deux avaient cette relation-là, et on les retrouve, si tu veux, dans un tout. Ils se retrouvent bien des années plus tard dans ben voilà, ce road trip, hein, qui est celui de Bruce Banner de Hulk, qui est un petit peu ben, sur la route, hein, essayant un petit peu enfin, comment dire, ben, d'éviter le FBI, hein, j'ai envie de dire, hein, concrètement, hein, d'éviter un petit peu les forces de l'ordre. Ils se retrouvent dans un hôpital, enfin Walter se retrouve dans l'hôpital et on ne sait pas pourquoi il a une crise, il se transforme en Sasquatch et il commence à décimer tout le monde. Et Banner qui avait entre-temps une interview, si tu veux, avec une journaliste locale qui avait un petit peu. Non, je crois que c'est justement avec. Je sais plus si c'est avec une journaliste ou une inspectrice du FBI, mais enfin quelqu'un qui avait compris ce qui se passait, quoi. Et du coup, Bruce qui lui explique un peu la situation, quoi. Et donc, bon, bah, Hulk finalement sort pour un petit peu calmer Sasquatch qui tue tout le monde, hein. Grosso modo, on est vraiment dans un carnage un peu horrifique. Et les deux se battent. Et on finit par comprendre, et il me semble que c'est dans le numéro 6, pourquoi finalement Sasquatch est aussi, comment dire, dissipé, j'ai envie de dire. C'est parce que, grosso modo, quelqu'un a pris possession de son corps, hein, littéralement, enfin, de ses faits et gestes. Et on le découvre en fait par un effet miroir, c'est-à-dire que c'est via, je crois, une vitre ou un miroir. On voit si tu veux, la personne qui sous le contrôle, qui prend contrôle de Sasquatch, et c'est tout simplement le père de Hulk, le père de David Banner. Donc qui visiblement n'avait pas que des intentions amicales vis-à-vis de son fils. Et les deux se battent, et finalement, je crois que Hulk finit par tuer, il me semble, Sasquatch, ou tout du moins le contrôler, quoi. Enfin, il est vraiment Sasquatch en très mauvais état. Donc du coup, ben voilà, on se dit, tiens, c'en est fini, entre guillemets, de cette petite altercade. Sauf que l'épisode se finit avec un Hulk qui marche. Qui passe entre deux voitures, il me semble, et en fait on voit dans le reflet, si tu veux, de la voiture, on voit bah, le père de Hulk qui bah, a réussi finalement à rentrer, si j'ai envie de dire, dans la psyché de Hulk, de Bruce Banner, quoi. Et donc, bah, du coup, ça fait que Hulk perd tout contrôle, et bah, là, dans cet épisode 7, on a la suite de ce qu'on a eu l'épisode précédent, c'est-à-dire que finalement, les Avengers sont venus pour contrôler, bah, pour essayer tout du moins de contrôler Hulk.
Ouais, d'accord. Finalement, une série qu'on pensait être sans doute assez déconnectée du reste de l'univers Marvel, ben, est bien ancrée dedans.
Là, pour le coup, oui. Après. Ça a forcément du sens aussi parce que on se souvient que Hulk est mort dans les événements, enfin mort entre guillemets, dans les événements de Civil War 2.
Oh, ouais, bien sûr.
Et du coup, fatalement, c'est logique que les Avengers finissent par prennent des actions, en tout cas, s'attache à ce problème-là, parce que bon, si le FBI finit par avoir dès le premier numéro des soupçons quant au retour du monstre vert, on peut se douter que le Shield, Nick Fury, toute la bande doit avoir et donc les Avengers ont dû avoir ces retours-là aussi, quoi. Donc voilà.
Ouais.
Mais le cliffhanger est quand même pas mal. Donne envie de voir la suite. Et ça reste quand même de très bon niveau, quoi, globalement. Je trouve que c'est un run qui, pour l'instant, se tient très bien, quoi.
M'a bien donné envie de m'y remettre. J'ai un peu laissé tomber Immortal Hulk alors que j'avais adoré les trois premiers numéros. Et là, voilà, tu m'as motivé. Il faut que je rattrape ça assez rapidement. Oh, de toute façon, au moins en décembre, moi je suis quasiment sûr de lire les One Shot Defenders. Au pire, j'utiliserai ça comme porte d'entrée pour m'y remettre. Alors, du côté des sollicitations, alors il y a quelque chose qui m'avait échappé, mais on a un nouveau titre sur Miles Morales. Miles Morales Spider-Man. Écrit par Saladin Ahmed avec Javier Garon au dessin. Alors ça me fait sourire parce que lorsque Miles Morales a été intégré à l'univers Marvel classique après les événements de Secret Wars, Bendis, il me semble, voulait appeler son titre Miles Morales Spider-Man. Il avait eu un titre qui s'appelait Ultimate Spider-Man Miles Morales. Et on lui avait dit non, non, ça vendra pas, pour ça qu'on l'a juste appelé Spider-Man. Et du coup, voilà, ça me fait rire que finalement, maintenant que Bendis ne soit plus là, on donne le titre qu'il voulait au nouveau titre consacré à Miles. Et à côté de ça, on a bon, toujours Spectacular qui continue, qui est quand même déjà sur le 313. Et j'anticipe janvier, mais on a une série qui a été annoncée pour janvier, le retour de Friendly Neighborhood Spider-Man, qui sera écrite par Tom Taylor et dessinée par Juan Cabal. Alors, je suis assez impatient parce que moi, j'adore Tom Taylor. Pour moi, c'est vraiment lui, de tous les auteurs qui ont émergé depuis, ça fait quoi? Ça fait bon, plus de 5 ans qu'il est sur le marché, mais là, ça fait vraiment, je dirais, 5 ans qu'il a réussi à être autre chose que Monsieur Unwritten. C'est lui, Unwritten, hein? Ah non, Unwritten, Tom Taylor, c'est le personnage principal, c'est ça? Oui, oula, oula, j'ai fait l'erreur. Voilà, je m'embrouille totalement.
Tom Taylor en ce moment est sur X-Men Red notamment.
Oui.
Et il était sur Vision, il me semble.
Oui, il a fait Vision. Non, c'est Tom King, Vision.
Ah.
Ben en fait,
Voilà.
Tom King et Tom Taylor, c'est un peu les deux scénaristes qui ont pas mal émergé. Non, il avait fait Injustice, Tom Taylor, il me semble, et Earth 2. Et il a fait X-Men 3
Ah
aussi.
oui, très bon. Enfin, R2.
Oui, il a fait X-23 aussi. Enfin, Tom Taylor, c'est vraiment une
C'était
valeur
Mike
sûre.
Carey, un de The Unwritten.
Oui, Mike Carré, oui, et Tom Taylor, c'est le personnage. Comment? Expert Comics,
Oh
ouais!
là là, le niveau.
Il est tard, il est tard. On dira pas aux gens quelle heure il est, mais il est tard. Et donc voilà, nouvelle série, Tom Taylor promet à un Spider-Man de nouveau super friendly, qui s'occupe de ses voisins et tout. Alors moi je dis pourquoi pas, mais voilà, on est de nouveau Spider-Man qui a trois séries. En plus, Amazing, c'est toujours bimensuel. Ça fait de nouveau trop pour un seul personnage. C'est le genre de... Enfin, je trouve ça un peu trop, quoi. Moi, ça me va très bien que Spider-Man ait un seul titre qui est bimensuel et pourquoi pas un deuxième de team-up à côté, pourquoi pas. Mais là, quand les personnages, et ça, ils le font à chaque fois sur Spider-Man et Batman et un peu Superman aussi, et Wolverine, il fut un temps aussi, quand un seul personnage a trois, quatre titres solo, sans compter qu'il apparaît dans plusieurs titres d'équipe, je trouve que ça fait trop, quoi. C'est au-delà du fait que déjà au niveau de la continuité, alors on sait que pour tout ce qui est cohérence et tout, faut pas trop se prendre la tête, mais là quand même c'est un peu trop abusé et ça fait trop de choses à la fois quoi.
Surtout que sur Amazing, on peut dire qu'on est déjà revenu un petit peu à des bases de Friendly Neighborhood, hein, d'une certaine manière, quoi.
Bah ouais, totalement, oui. Là, on a eu, bah, on va en parler, hein, on va même en parler d'ici quelques instants, mais Tom Taylor a rien à voir. Nick Spencer, voilà, un autre de mes scénaristes favoris de ces dernières années, donc continue son run. On a eu les numéros 6 et 7, et il s'intéresse à cette intrigue secondaire qui, moi, dès le début, m'a accroché, à savoir Spider-Man qui est colocataire avec Randy Robertson. J'ai bien
Oui,
prononcé, c'est bon?
tout à fait, comme
Oui,
problème.
oui. Ah, super, merci, merci de m'adouber.
Je confirme, hein.
Ah, merci, bah, on sait que tu es expert dans ce personnage, donc je préfère te demander. Et Boomerang, alias Frank Myers, personnage que Nick Spencer avait sublimé dans la série Superior Foes of Spider-Man. Et là, vraiment, il renoue avec cette série, puisque Fred Myers, pas Frank, décidément expert comics jusqu'au bout ce soir, personnage qui a été gracié, puisque durant les événements de
Secret
Secret
Empire.
Empire, événements qui sont pas mal rappelés ici. Hein. Il a aidé les héros, plus ou moins, donc il a été gracié à la fin. Et tout le monde sait qui est Fred Myers. Peter sait pertinemment que son coloc, c'est un super vilain. Par contre, évidemment, le super vilain, lui, ne sait pas que Peter est Spider-Man. Et les personnages ici vont se rapprocher, notamment lorsque Fred va découvrir que Peter est un expert en Spider-Man. Et pour cela, il va l'emmener dans le fameux bar sans nom. Ce bar où tous les super-vilains se retrouvent pour boire des coups. Et il va présenter Peter Parker comme un super-vilain dont personne n'a entendu parler, afin qu'il l'aide à participer au grand quiz de Spider-Man. On découvre qu'en fait, les super-vilains organisent des soirées quiz consacrées aux super-héros. Et je crois que là, c'est la deuxième soirée spéciale Spider-Man et il y a un gros lot à gagner et tout. C'est complètement débile. Et je trouve ça génial, quoi.
Ouais.
Moi, ça me fait beaucoup rire
Mmh.
avec le cerveau vivant qui fait office de correcteur pour vérifier que les réponses sont justes. Enfin, c'est complètement con, mais ça me fait rire, quoi. Je trouve que c'est du génie.
Peut-être un peu ça aussi le problème, quoi. Faut pas que ça tombe trop dans le superpowers of Spider-Man, quoi, tu vois. Parce que bon, c'est un peu de la gaudriole, hein, quand même, hein.
Ah, si c'est un petit arc en deux, trois parties de temps en temps, ou même un épisode, là pour le coup c'est un arc en deux parties, si c'est ça de temps en temps, pourquoi pas, tu vois. Je comprends hein, que certains soient
Je
allergiques à
trouve
ça.
ça, là sur cet épisode-là, je trouve que c'était un peu too much. Puis le, ouais, on va voir la suite. Enfin, dans l'épisode 7, mais bon, ouais.
Moi, je sais pas, moi ça m'a convaincu. Alors, c'est bien qu'il s'arrête là. En
Je
faire
trouve que
plus,
c'est
ça aurait été
drôle, hein.
trop.
Je trouve que c'est drôle. Je trouve juste que c'est encore une fois un problème pour moi de positionnement de titre. Moi, pour moi, ça, enfin, ce genre d'épisode un peu comique, un peu, tu vois, un peu comme ça, ça a sa place, tu vois, mais dans un titre Spider-Man, que autre qu'Amazing Spider-Man, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'Amazing Spider-Man reste plus sérieux, peut-être plus développer la relation entre Peter et Mary Jane, quoi, justement, et plus, tu vois, ce côté-là de développer le côté un peu buddy movies avec Fred Myers, le faire peut-être dans un autre titre annexe, quoi, tu vois.
Bah, là, en même temps, dans l'épisode 6, donc là, on chronique les 6 et 7, Mary Jane n'est pas oubliée, puis Fred Myers, voilà, il apparaît de temps en temps, c'est pas non plus la seule intrigue que
Enfin,
développe.
sur le 6 et le 7, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup là, quoi.
Ouais, mais il était très effacé sur les précédents. Il y avait des numéros où il apparaissait pas. Quand il apparaissait, c'était à peine. Et je sens venir le truc. À un moment donné, il va plus ou moins, volontairement ou non, sauver Spider-Man. Je sens. Alors, je dis n'importe quoi. Enfin, je me base sur rien. Hein, juste sur. On le voit venir, quoi. Que si Nick Spencer utilise tellement le personnage, c'est pas juste pour le plaisir. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Alors, juste pour les dessins, on a Humberto Ramos, autre dessinateur. Enfin, autre dessinateur plutôt. Souvent associé à Spider-Man, que certains aiment, d'autres pas trop. Et on a un invité, on a justement, bah, Superior Foes oblige, on a le dessinateur de Superior Foes qui est invité pour une petite séquence flashback. Alors ça m'a fait rudement plaisir que. Bon, alors toi, du coup, si t'es allergique à la série, peut-être moins, quoi. Mais moi, ça m'a fait plaisir que le dessinateur revienne faire un petit coucou le temps d'une scène assez rigolote.
Non, je suis pas allergique à la série, mais je suis juste allergique à la série dans Amazing Spider-Man, quoi, tu vois. On lui demande de faire du Amazing Spider-Man, pas du Superior Foes, quoi, c'est tout. C'est pas très grave, hein.
De toute façon, oui, vu la fin de l'épisode, on raccroche les wagons avec les autres intrigues qui ont été développées et
Oui, parce que faut dire aussi que bon, le Kaïd a quand même mis un contrat sur la tête de Boomerang, hein.
Ouais, tout à fait, oui.
Et que donc dans le bar sans nom, visiblement les messages passent vite, hein, au niveau des SMS, donc et donc tout le monde s'est retourné vers Boomerang et Peter, qui lui était trop concentré à gagner le concours de celui qui connaissait le plus Spider-Man. Donc du coup, ils se sont quand même fait légèrement fusiller, et grâce à Boomerang, Peter a pu s'échapper, donc Mais le caïd en veut, bah, une dent, hein, très clairement contre Fred Myers, quoi.
Ouais, le cahier. d'autres personnages que Nick Spencer n'oublie pas. On a vraiment, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que il pioche aussi bien dans les gros noms que les noms plus secondaires. Si on s'y attendait à ce que les supérieurs fausses arrivent. Donc voilà, enfin moi, Amazing, je continue d'être super friand, alors qu'à côté, t'as Spider-Geddon, et ça, moi qui adore pourtant les récits sur les mondes parallèles, je m'en fous.
Trop c'est trop quoi. Tu vois,
Oui.
après Spider-Edge, tout ça, tous ces Spider-Man qui viennent de nulle part, tous dans un épisode, trop c'est trop quoi, tu
Oui,
vois.
oui, oui. Et puis,
Voilà.
c'est. Cet énorme event laisse de côté la série principale, quoi. C'est quand même. C'est quoi? C'est bon, alors je sais que c'est Christos Gage qui écrit, mais quand même Dan Slott qui tire un peu les ficelles derrière. C'est quoi? C'est Dan Slott qui veut pas, qui n'arrive pas à lâcher Spider-Man. C'est
Bon,
bon.
peut-être simplement Marvel qui pense à la sortie de leur film.
Oui.
Je crois que c'est. Alors, je sais plus comment il s'appelle le film,
Alors
justement.
en français, je crois que c'est New Generation, un truc comme ça, mais.
Sinon, c'est Spider-Man, je crois, non?
Ouais, c'est pas Into the Spider-Verse, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc, au mois de décembre, il me
Oui,
semble,
oui, oui,
par Sony, donc un film animé. D'ailleurs, voilà, bon, c'est pas un spoil, hein, mais si vous allez voir Venom, restez après
oui.
la fin du générique, parce que vous aurez un sneak peek, hein, vous aurez 5 minutes pratiquement, même environ, du film, hein, de Spider-Verse, quoi.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah oui, bah alors, sauf si évidemment vous voulez rien savoir de ce film-là, allez-y, quoi. Enfin, restez. Et alors, du côté de Spider-Man, il y avait eu d'autres séries, donc Spider-Geddon, moi je l'ai pas lu, toi je crois que tu l'as pas lu non plus.
Non.
Voilà, Super-Hero Octopus, j'en parle pas plus, je l'ai évoqué avant, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il y avait une autre sortie, en parlant justement d'univers parallèle, dont je pense que tu peux en parler maintenant, sauf si t'es pas prêt.
Ouais, c'est bon, on peut y
Allez,
aller.
vas-y, alors on s'accroche à la toile et on te suit dans cet autre univers.
Ouais, alors un What If, donc c'est, on vous avait parlé de cette série de What If qui allait sortir chez Marvel, donc dans l'émission précédente, et donc là, je vais vous parler de What If, puis spécialement de What If Flash Thompson Became Spider-Man, donc écrit par Jerry Conway avec des dessins de Al Ortegi, donc j'ai plus le prénom. Il m'excusera. On va l'appeler Imanol. Hein, ça fait très, très espagnol. Imanol Olertegui. Ça va lui plaire. Et
Oh,
donc voilà.
olé, Imanol, pardon.
Imanol. Hein. Et donc du coup, Imanol c'est un peu basque hein, d'ailleurs, en passage. Mais bon, c'est pas grave. Ce serait plus Ignacio du coup. Ignacio Olertegui. Donc du coup, en fait, c'est simple. Hein, What if Flash Thompson became Spider-Man? Eh bien, c'est tout simplement un what if dans lequel c'est pas finalement Peter Parker qui devient Spider-Man, c'est Flash Thompson. Et un Flash Thompson, alors là on prend pas de gants, c'est-à-dire que le costume direct on rentre dans le numéro, il est tout de suite Spider-Man. Et on voit son costume, alors c'est pas un spoil, hein, c'est le premier, la première page. Son costume c'est. C'est pratiquement celui de Superior Spider-Man. Sans évidemment,
Sans les pattes.
les pattes, les bras, enfin appelez ça comme vous voulez, les octopus, bref. Donc ça situe un petit peu on va dire le côté vindicatif, proactif, si je puis dire, de ce Spider-Man-là, quoi. Très clairement, c'est un Spider-Man qui est. Conscient de ses pouvoirs, de sa force, qui rentre dedans, qui n'hésite pas à remettre les gens à leur place, et qui va pas, je dirais, se formaliser par rapport à ce que les gens pensent. Enfin, pas les gens pensent de lui, mais ce que les gens. Enfin, plutôt, si les gens considèrent que c'est une menace, il va leur faire comprendre que, écoutez, moi je casse la gueule, moi je suis là pour casser les gueules aux méchants, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et par ailleurs, bon, on voit quand même son quotidien en tant que Flash Thompson qui est pas très reluisant parce que finalement, il vit dans une roulotte, hein, très clairement, à l'extérieur de la ville. Donc il est un peu sans sou. Et donc très clairement, lui, le côté grand pouvoir, grande responsabilité, il a pas eu en fait, voilà, comment dire, la présence paternelle, d'oncle Ben ou de tante May pour un petit peu pas lui mettre du plomb dans le crâne, mais tout du moins le guider, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, finalement, va se passer dans cet épisode-là un événement que je vais pas vous révéler. qui va du coup changer un petit peu le devenir finalement de Flash en tant que Spider-Man. Et je dois dire que l'événement trouvé est quand même... Enfin, quand on commence l'épisode, sincèrement, moi je l'ai pas vu venir. Voilà. Et la suite du truc, la suite en fait de l'épisode et de ce que cet événement-là aura pour signification et impact sur la vie de Flash Thompson, je trouve que c'est quand même plutôt couillu.
Ah, tu m'intrigues là.
Franchement, et ça s'arrête. Et très franchement, je sais pas si c'est alors si c'est alors c'est sur la première page, c'est noté comme numéro 1. Sur la couverture. Alors, est-ce que ça va être le premier d'une mini-série?
A priori, non, c'est les one shot a
Voilà,
priori, donc.
c'est ça. J'ai peur que ce soit justement le numéro 1 de cette série de What If. Et je trouve ça bien dommageable parce que sincèrement, j'aurais vraiment été curieux de voir le numéro 2, quoi.
D'accord.
Après le cliffhanger, enfin le cliffhanger, la fin de l'épisode, quoi.
Ouais.
Qui peut faire office de toute façon de fin fermée, hein. Mais tout à son de ça peut être à la fois une fin ouverte et une fin fermée, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Bah, dans la grande tradition des What If, en fait.
C'est ça, c'est ça.
Avec toujours une fin surprenante, c'est un peu l'arroseur arrosé
Et
ou.
je trouve que franchement, ce premier épisode qui représente un petit peu vraiment les débuts entre guillemets de ce Spider-Man là. Moi, ça m'aurait vraiment donné envie de voir un Spider-Man là qui aurait eu ses aventures après ça, quoi. Tu vois. Je me demande même si c'est finalement. Alors, j'aurais peut-être pas eu le même regard si ça avait pas été un What If, si ça avait pas eu, si ça avait pas eu la, enfin, Spider-Man avant, tu vois, avec écrit depuis les années 60, Steve Ditko, tout ça, Peter Parker, tout ce que tu veux. Mais je trouve que c'est. Non, je trouve que c'était bien, bien fait, quoi. Franchement, alors Benny avait parlé le mois précédent enfin de l'épisode, l'émission précédente il pensait qu'il y avait un What If qui avait déjà écrit par Jerry Conway.
Ouais.
Alors je sais pas si c'est la même histoire, je pense pas, mais en tout cas, ouais, c'était non, c'était plutôt chouette, quoi.
Je sais plus si c'était pendant l'émission ou après qu'on avait regardé. Je crois qu'il y a déjà eu un, voire deux épisodes par le passé de What If ou autre où on avait Flash
Sur
Thompson sous le
Flash, ça,
costume. Ouais.
ça
Ouais, je crois que ça a été fait
va.
déjà
Ouais.
deux fois avant. Mais après, pourquoi pas? Mais une même idée, on peut la revisiter sous différents angles, hein. Surtout que la façon qu'on avait d'écrire Flash Thompson il y a 40, 50 ans n'est plus la même que maintenant. Ou bien même
Non.
tu écris une brute dans les deux cas.
Non, et puis c'est intéressant de toute façon le passage du bully vers autre chose, quoi, tu
Oui,
vois.
et puis avec Flash Thompson, tu peux montrer que même en Spider-Man, ça reste un con, qu'en Spider-Man, au contraire, peut-être qu'il peut avoir une rédemption, peut-être qu'il peut empirer, t'as plein de différentes pistes à suivre.
On peut inviter déjà les gens s'ils veulent à aller lire le
Oui.
run de Rick Remender, je crois, sur
Sur
Flash
Venom,
Thompson en
oui,
Venom.
sur Venom, excellent run, excellent. D'ailleurs là, on l'a pas dit, mais chez Panini, il y a Minimum Carnage qui sort, qui est un crossover entre le Scarlet Spider. Alors là, c'est déjà la période Cullen Bunn, quoi. On en est déjà à la période Cullen Bunn, ça veut dire que tout Rick Remender sur Venom est disponible dans la collection Marvel Dark. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas le lire.
Voilà. Donc voilà, un What If très intéressant. Et à noter que j'ai aussi lu le What If X-Men,
Ah!
donc qui lui, en fait, donc c'était un What If qui n'y avait pas le gène mutant, en fait. On parlait plutôt d'un cyberespace, et en fait, certains êtres humains, enfin certains habitants de la Terre, avaient la possibilité de directement se loguer sur ce cyberespace et de pouvoir y développer des facultés particulières, des pouvoirs, sans avoir besoin de se loguer, enfin de comment dire, de payer en fait. Un humain, lui, lambda, devait passer par une somme d'argent, un montant forfaitaire, enfin, devait payer littéralement pour rentrer sur ce cyberespace qui évidemment était géré par Magneto. Honnêtement, c'était pas mal du tout, quoi.
D'accord.
C'était pas inintéressant. Alors, j'avoue avoir préféré le What If sur Flash Thompson, mais celui-là, donc où on suit surtout Cable, Domino et puis le professeur Xavier, celui-là est pas mal du tout, quoi.
D'accord. Alors ça, c'est un peu quand même Matrix rencontre les X-Men, j'ai l'impression, ce truc, non?
Ah, très clairement, quoi. Ou, ouais, totalement, totalement. Matrix, j'allais te dire, j'avais pensé à Summer Wars, le film d'animation, mais quelque part, non, parce que Summer Wars, tu. Enfin. Là, les gens sont vraiment, comment dire, comme dans Matrix, si tu veux, ou dans Inception, tu vois, quand ils sont en pleine. Enfin, tu vois, ils rentrent dans leur subconscient et à l'extérieur, dans la vraie vie, tu vois, ils sont pas allongés, quoi. Enfin, comme s'ils étaient en train de dormir, quoi, tu vois.
Ouais. Alors,
Comme dans Matrix.
ce qui est intéressant, c'est que là, tu as quand même deux visions totalement différentes du what if. D'un côté, on a vraiment le what if à l'ancienne et qui joue vraiment sur l'effet papillon, à savoir, et si finalement, à tel moment, plutôt que
Totalement.
de faire ça, bah, l'événement s'était passé comme ça. Et de l'autre côté, tu as une réimagination où aucun effet papillon ne peut justifier ce qui se passe dans ce monde-là. C'est vraiment. C'est un peu d'habitude, de manière classique, on a plutôt, et si les personnages vivaient au Moyen Âge, tu vois, ou dans un monde médiéval fantastique, ou le genre de truc qu'on va beaucoup. En fait, ça me rappelle beaucoup les Elseworlds chez DC plutôt. C'est plutôt DC qui fait des what if de ce
Là,
genre-là d'habitude.
ce serait plus un S-word. Et on
Ouais.
a notamment. Oh, alors bon, de toute façon, c'est un ratier, je peux vous spoiler. Mais dans les dernières pages, vous verrez une case avec le design des X-Men dans cet univers digital. Et pour le coup, un design pas dégueulasse, quoi.
D'accord. Et là aussi, pour toi, ce serait un bon point de départ pour pourquoi pas une mini-série ou bof?
Peut-être un peu moins quand même que Flash Thompson, parce que vraiment ce qui se passe dans le what if sur Flash Thompson et la fin, vraiment la fin qui est assez étonnante, quoi, tu vois. Et effectivement, serait, je trouve, très intéressante à creuser. Autant là, peut-être moins. Bon, ça reprend quand même des codes sympathiques des X-Men, notamment des années 90. Donc, avec un Magneto qui fait quand même pas mal penser à, je dirais, un Magneto version, tu vois, début des années 90, quoi, l'Astéroïde M, tout ça.
Ah ben moi, en
Donc.
plus, vu le pitch, ça me fait penser à des choses qu'on a pu voir dans la deuxième partie des années 90, tout ce qui est Matrix, Existence, peut-être même Strange Days, enfin tous ces films qui interrogent un peu notre rapport à la réalité, Johnny Mnemonic aussi, enfin tout ça quoi.
Clairement, il y a le côté Matrix.
Ghost in
Bon,
the
il y a le
Shell,
côté.
peut-être un petit peu aussi, enfin,
Ah
je
ben,
vais
de toute
peut-être un peu
façon,
trop loin, mais oui.
Matrix, enfin les frères Wachowski sont allés largement pomper chez Ghost in the Shell. Hein,
Oui,
donc,
oui. Bon, ils s'en cachent pas après, mais
oui, de toute façon,
ils le
ils le disent.
revendiquent.
Hein, ils ont une inspiration de toute façon de la Japanimation, quoi.
Oui,
Voilà,
et puis
donc.
les comics, je crois qu'ils ont déjà cité les X-Men aussi. C'est les gens qui clairement ne cachent pas du tout leur amour pour tout ça.
Oui.
Ok, bah merci beaucoup pour ces deux reviews. On continue encore chez Marvel. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de ce qu'on a à dire. Alors, pour ce qui concerne les sollicitations, je vais les clore en disant que il y a un one shot consacré au Fantastic Four qui sort en décembre. J'en dis pas trop pour garder un peu le suspense pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il parle, même si le titre est très explicite. Puis
Oui.
la série sera à ce moment-là son cinquième numéro. Et en attendant, le troisième numéro sort bientôt, mais moi j'ai eu le deuxième. Et alors, on se rappellera que j'avais bien aimé le premier, que Bunny n'avait pas du tout aimé le premier, et toi, je crois que tu t'en cognais de manière cosmique. Et donc, numéro 2. Alors, dommage que Bunny soit pas là. J'espère qu'il l'a lu, parce que bah, il aura peut-être été un peu moins déçu, puisque autant le premier numéro, et on peut le comprendre un peu aussi, c'était vraiment centré sur Ben et Johnny qui désespéraient de retrouver un jour leurs amis. C'était vraiment, bon, l'un disait à l'autre, bon, écoute, maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Ils sont partis, ils sont partis. Et la fin laisse évidemment entendre qu'ils allaient revenir. Et là, voilà, on a un épisode qui est consacré aux parents Richards, leurs enfants et leurs petits étudiants. Parce qu'à la fin de Secret Wars, c'était pas juste Ritsu ou Valeria et Franklin qui partaient découvrir et même reconstruire le multiverse, mais il y avait avec eux tous les petits jeunes de la Fondation du Futur et comment il s'appelle le personnage surpuissant là qui crée les univers? Molecule Man, l'homme molécule. Voilà, ouais. Donc là, on retrouve tout ce petit monde. Alors, voyages spatiaux, cybéro, interdimensionaux, temporaux, je sais pas quoi, bref, le temps n'a pas passé pour eux, le temps ne s'est pas écoulé pour eux, voilà, je remets ça dans le bon ordre, que pour les gens du Marvel Universe classique. Et donc, les petits jeunes ont grandi. Bon, en même temps, ça, lorsque vous avez un enfant dans les comics, une fois sur deux, il finit par passer dans une autre dimension ou dans le futur et revenir grandi. Hein. C'était même déjà arrivé à Frank Larry Richards. Finalement, Frank Larry, rappelez-vous, dans les années 90, il était déjà devenu un ado pendant quelques temps, il avait fait partie de la Fantastic Force. Et puis même Valeria, c'est quand même la Valeria qu'on connaît est quand même née grâce à une Valeria ado du futur. Enfin, c'est les FF et Voyage dans le temps, c'est aussi compliqué que chez les X-Men. Et donc là, les gamins ont grandi. Reed s'est laissé pousser la barbe. Bon, quoique il avait déjà la barbe avant, en fait, Reed continue à avoir la barbe plutôt. Et on découvre un peu ce que fait tout ce beau monde. Ils explorent dans la grande tradition des FF. Valeria commence à grandir et puis on a un petit clin d'œil à la relation sous Namor. J'en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça assez savoureux. Ça m'a bien fait rire. Et évidemment, comment est-ce que tout ce beau monde va se reconnecter à l'univers Marvel? Bah, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher le numéro. Mais la dernière page m'a fait bien plaisir. Et puis, Sara Piccelli pour les dessins est toujours aussi, c'est toujours aussi beau. Moi, je suis méga fan de Piccelli depuis qu'on la retrouve chez Marvel. Et on a Dan Slott au scénario. Pour moi, Dan Slott sur des gamins, je trouve que ça colle bien. Donc voilà, le titre continue sur sa promesse de reconstruire la famille, de renouer surtout avec le côté exploration, découverte, émerveillement même, qui était un peu la quintessence du titre, à ses débuts et pendant très longtemps. Et si vous avez été déçu du premier numéro, bah, s'il vous plaît, allez, tenez au moins jusqu'au deuxième, voire le troisième qui suivra directement, pour vraiment vous faire un avis, parce que là, ça démarre, quoi. Ça démarre vraiment. Et finalement, moi j'aime bien quand il y a des numéros étendus, voire doubles, pour les premiers épisodes, mais là je comprends que ça a été coupé en deux, quoi, qu'on ait vraiment une partie Ben, Johnny, aussi un petit peu Alicia, et une partie le couple et les enfants, quoi. Donc voilà, allez-y, vraiment, essayez, pour moi, ça peut être pas mal. Et Jonathan, je crois que tu es parti dans une autre dimension, j'étais perdu.
Non, non, Fantastic Four, bof. Moi, les histoires de famille, voilà.
Ah oui, donc si ça t'intéresse pas, viens peut-être pas voir la suite. Ouais. Surtout, vu le nom du one shot,
Mais j'ai
oui.
jamais été de toute façon un grand fan de la franchise en elle-même, quoi. Tu vois,
D'accord,
j'ai
ouais.
jamais été
Ok. Ouais,
trop attiré.
bon, à ce moment-là, ouais, c'est pas pour toi, quoi. Pas grave, hein, il en faut pour tout le monde.
Ouais. Après, si je puis me permettre,
Vas-y,
j'avais
permets-toi.
vraiment pas été convaincu par les épisodes d'Iron Man de
Ah oui, ouais.
Dan Slott. C'est Dan Slott, ouais, qui a repris Iron Man.
Oui.
Et je dois dire que là, depuis là, on en est, il me semble, au numéro 4. Et bien, je continue toujours la série et je dois dire que c'est pas trop mal, quoi. Ce qu'il
D'accord.
raconte, le côté très 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 blague du premier épisode où on avait vraiment l'impression de voir un Tony Stark version MCU, pire moment d'Iron Man 3. Petit à petit, on voit que ça s'efface et que ouais, il y a de l'histoire derrière et ouais, non, c'est j'avoue, je trouve pas ça déplaisant, quoi.
Ok,
Donc
d'accord.
peut-être que tu vois de la même manière Fantastic Four, bah peut-être que faut juste que je passe le pas, quoi, c'est tout. Hein.
Ok, ouais. Moi, Iron Man, je crois que... Ah, j'ai un numéro de retard, faut que je m'y remette. Mais j'aime beaucoup aussi, c'est très différent. Et justement, on retrouve pas du tout le même Dan Slott sur FF et sur Iron Man, je trouve. Ce sont vraiment deux manières assez différentes d'aborder les personnages. Même si de base, de toute façon, les FF et Iron Man sont des titres vraiment différents, quoi. Mais là, vraiment, dans sa façon d'écrire, Dan Slott est... Ça qui est pas mal, c'est qu'il est un peu caméléon, quand même. C'est qu'il arrive à changer de style. Je vais pas dire adapter son style au personnage parce que ses approches d'Iron Man ou de Spider-Man ne plaisent pas à tout le monde. Mais au moins, c'est pas, par exemple, Bendis où tu reconnais la patte Bendis. Et où ça devient même ridicule, pour certaines séries parce qu'il n'arrive pas à trouver le bon ton, quoi. Au moins, on peut pas reprocher à Slott de pas essayer des tons différents. Que ce soit les tons différents entre ses séries ou que ce soit de trancher avec ce qu'ont fait ses prédécesseurs, tu vois.
Ouais.
Mais pour rester dans le cosmique, si on en a fini avec les FF ou avec Dan Slott, là, on a eu une annonce pour ce qui nous attend par rapport au prochain mois, c'est les Gardiens. Les Gardiens de la Galaxie reviennent. Alors, on a eu un teaser, on en avait parlé, il me semble, de cet immense poster où on avait une palanquée de personnages, on avait tous les personnages cosmiques, enfin tous non, mais une bonne partie des héros cosmiques Marvel sur un poster.
Sur la quoi? Oh, c'est un
Voilà,
poster,
qui
ouais.
fleurait bon d'ailleurs l'époque Annihilation de. Alors c'était d'abord
DNA.
oui, il y avait Updated Lanning et au début Giffen,
Et
quoi.
Kiss
Giffen qui
Giffen,
avait
ouais.
lancé ça et Updated Lanning qui avait vraiment développé ça. Vraiment, j'avais l'impression que ce soit dans les personnages présents, même dans les costumes et tout, qu'on y revenait. Et vu le roster final des prochains gardiens, bah on y est, quoi. Je sais pas quel sera le ton des histoires, mais vraiment, veux-tu présenter ces nouveaux gardiens, Jonathan?
Alors on a bah, évidemment Star-Lord. Alors un Star-Lord qui garde quand même un design MCU hein, du
Ouais,
film.
oublie ça, bon.
Bon,
Oh, quoique,
tant
il n'a pas
pis.
la veste rouge, hein. Il a le masque, mais il n'a pas la veste
Il a
rouge.
le masque. Il a un masque qui, bon, de toute façon, qui ressemble hein, à ce qui est quand même ce qu'il avait de toute façon même sur le run de Giffen et
Oui.
après Damien Lanning. Donc c'est
Oui,
pas
bon, les films ont quand même adapté certains trucs des comics, ils n'ont pas non plus tout balayé, hein.
Pas non plus tout balayé, mais le coup des deux pistolets, bon, par contre, oui,
Oui.
effectivement, cela, c'est. Bon, bref, c'est pas très grave. On a sinon
Attends, peut-être
Dark.
dire avant de passer aux nouveaux membres, aux membres revenants, qui reste-t-il à part Star-Lord?
Groot.
Voilà.
Et ben, c'est tout,
Groot
il me semble.
qui d'ailleurs avait, la dernière fois que j'avais lu Infinity Countdown, Groot avait pas mal changé. Donc, vu la tête qu'il a sur le poster, j'ai l'impression que c'est le Groot qui a changé. Après, je peux me tromper, hein. Comme j'ai arrêté Infinity Wars pour l'instant, peut-être que je peux me
Ben, c'est
tromper.
un peu, c'est suffisamment sombre pour qu'on puisse pas trop voir quand même, quoi.
Ouais, mais si tu vois ce que je veux dire par rapport à un groupe changé,
Oui.
quoi, on revient à un groupe plus à l'ancienne, quoi. Ouais. Et donc, vas-y, annonce les nouveaux.
On a Nova.
Ouais.
Nova qui fait, bon, alors est-ce que ce sera Richard Rider
Oh
ou
bon
pas
Dieu, ouais, il a le look période d'annihilation,
il
là.
a. Là, il est là, c'est du pur Nova, époque début 2010, là, hein,
Oui,
donc
ouais.
c'est Prime Nova, hein, j'ai
Oui,
envie de
avec
dire.
l'étoile à 8 branches sur la tête et ouais.
C'est ça. Hein. On a Adam Warlock, pardon, j'y vais arriver.
Avec le look qu'il a eu récemment, là, qui fait penser au look de Miss Marvel Kamala Khan, d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai. On a Gladiator. Gladiator, c'est toujours la question, est-ce qu'il doit être là ou pas? Bon.
Bah, déjà, moi, ce que j'ai, au-delà du fait que Gladiator est 1000 fois trop puissant, et ils sont 3-4 être 1000 fois trop
C'est
puissants
vrai.
là-dedans, c'est que, ouais, par rapport à son tempérament, Gladiator, il est chef ou il est rien. Je le vois pas être
Il n'est pas
subordonné.
sidekick. Non, non. C'est clair. C'est clair. Et puis, c'est un personnage, tu peux pas faire grand-chose, quoi, en général, avec lui.
Oui.
Je trouve qu'il a toujours mieux marché quand il est antagoniste, hein, de toute façon.
Bah, c'est un peu l'antagoniste qui est là et qui a pas pigé que les héros sont les gentils, quoi.
C'est ça, ouais. C'est l'inspecteur Bullock dans la série
C'est
Batman.
vrai. Soit il fait que suivre les ordres, soit il pense bien faire et finalement, en fait, non, quoi.
On a Beta Ray Bill.
Eh, autre personnage quand même pas mal puissant.
Ouais, effectivement. Alors, en parlant de personnages surpuissants, on a le Silver Surfer.
Ouais, voilà. Le Silver Surfer et Gladiator et Nova qui est peut-être en Nova Prime et Adam Warlock. Qu'est-ce que tu veux? Et
Voilà.
puis, bon, Beta Ray Bill en renfort encore. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi?
Ben, on a Mondragon.
Voilà, oui.
Mondragon, on a Phil-Avel.
Ouais, qui est bleu maintenant, d'ailleurs.
Oui,
Alors, j'étais
effectivement.
pas au courant qu'elle était revenue, Phila.
Elle a fait la permanente aussi, visiblement.
Ah ouais.
On a Darkhawk
Oui.
qui est là. Et puis le dernier, attends que je regarde, ben c'est Ghost Rider, il me semble.
Le Cosmic Ghost Rider.
Le Cosmic Ghost Rider, voilà. Est-ce qu'il y a du sens quelque part, puisque ben, le titre est écrit par Donny Cates?
Voilà.
Et j'imagine que Cosmic Ghost Rider, bah, ce serait celui qui a été bah, tout simplement introduit par Donny Cates. Donc,
Oui. Alors, il y a une mini-série en ce moment, donc on peut, vu qu'il vient. Alors, c'est. Wow. Je sais pas, c'est déjà sorti en VF ou pas les premières aventures de Cosmic Ghost Riders en Thanos? Parce que j'allais spoiler son identité en fait, mais je me dis, oh, et si on la gardait peut-être quand même?
Thanos, je crois, commence à sortir en ce moment, il me semble.
Ouais. Bon, dans le doute où c'est pas sorti en VF, on va peut-être pas spoiler l'identité du Cosmic Ghost Rider, parce que c'est rigolo et c'est un truc d'ailleurs que cette personne-là devienne un Ghost Rider. Alors bon, comme tout fan, je me suis déjà fait mes scénarios dans la tête. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant qu'on n'ait jamais eu de What If où ce personnage-là deviendrait le Ghost Rider, quoi. Alors là, en plus, ils ont rajouté le côté cosmique, donc c'est vraiment n'importe quoi.
De toute façon, on peut que vous engager à lire cette série Thanos, donc.
Oui. Bon, par contre, du coup, bah, le Cosmic Ghost Rider, ce personnage qui est encore un personnage qui vient du futur. d'un futur possible, quoi.
Je vais pas spoiler, mais je vais quand même dire qu'il vient d'une finition.
Non, non, bah oui, non, mais parce que dans la série Thanos, c'est parce que c'est un arc dans le futur. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est dès le début, quoi. Je veux dire. Bon, bref, allez.
Oh, mais... Allez, chier, merde.
Oui, oh, diantre. En tout cas, et on l'a pas dit, c'est Geoff Shaw que je connais pas du tout, qui est au dessin. Et donc, équipe surpuissante qui fait à la fois penser à la période Abed et Lanning, mais aussi à l'équipe des Annihilators, qui était c'est où il y avait aussi Gladiators, Beta Ray Bill et compagnie, quoi.
Après Thanos impérative.
Exactement, ouais. Ça fait assez Infinity Watch aussi, hein, les séries des années 90, quoi.
Ouais.
Avec Moondragon, Beta Ray Bill et compagnie. Donc voilà, déjà, à voir quoi. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a cette équipe-là? Pourquoi Star-Lord doit rassembler cette équipe surpuissante? Où sont passés les autres gardiens? Tant de questions.
Pourquoi ces gens-là acceptent d'être sous les ordres de Star-Lord?
Oui, voilà, ouais. Star-Lord sera-t-il encore écrit comme un idiot? Est-ce
Oui,
que
voilà.
toutes les réponses à nos questions ne sont-elles pas dans les titres que ni toi ni moi ne lisons, mais qui sont peut-être déjà sortis depuis un mois ou deux? Allez
Ah,
savoir.
je crois que Star-Lord est quand même toujours dans le trip MCU, hein,
Ouais,
donc
non, ça c'est foutu, quoi. C'est.
le Star-Lord épique qui combat à côté de Nova dans Thanos Impérative, je crois qu'il faut il faut
Ben,
l'oublier.
rappelle-toi le superbe épisode de Bendis, on nous révèle tout sur qu'est-ce qui est arrivé à Nova et à Star-Lord. Putain, c'était une blague ce truc.
Dans le cancer vert,
Oui,
c'est formidable ça. On attendait tout ça.
il s'est passé exactement ce qu'on avait imaginé en plus.
Mais Thanos déjà qui revient, tu sais, dans Avengers Assemble, donc la série de Bendis, comme ça, sans explication.
Non, mais ça, à la
Voilà,
limite, qu'il n'y ait
rien.
pas d'explication, parce que rappelle-toi, je sais plus qui pose la question à Peter Quill, mais comment toi et Thanos vous êtes revenus et où est Nova? Et Peter qui a un regard à la fois dur et triste, genre, je peux pas te dire, c'est trop horrible. Sauf que, ouais, l'explication, elle a mis 3, 4 ans à venir, et qu'en fait, c'était tout pourri. En plus, visiblement, Drax s'était aussi coincé avec eux, mais ça, personne l'a jamais mentionné par la suite, tu vois. Donc, en fait, Drax savait aussi. Et surtout, vu les explications de comment il a fait pour revenir où était Nova, rien ne justifiait le fait qu'il ne dise rien. C'est
Oui,
hormis le
c'est...
scénar, hormis l'envie d'avoir un scénario plein de mystères mystérieux pour faire durer le mystère mystérieux, rien ne le justifiait, quoi. C'était vraiment. Mais en plus, c'était un tie-in à Original Sin, sauf que ça n'avait. Hormis le fait qu'il y ait une révélation, c'était pas lié à ce qui se passait dans Original Sin. Oh là là, c'est. C'était nul. On peut pas s'empêcher de taper
Ça.
sur Bendis. Hein. C'est pas possible.
Malheureusement, il fait rien pour l'éviter,
Ouais.
hein, ce bon
Comme
monsieur.
on ne
Hein.
le verra pas dans la partie d'ici, parce qu'on a laissé tomber les titres d'ici, les titres de Bendis, je veux dire. Bon, sur ce, on va peut-être achever la partie Marvel, sauf si tu avais encore des choses à dire.
Non, non, non.
On a encore une belle review aussi avant de finir, mais avant de passer à cette review, bon, du côté de Conan, on avait annoncé que Jason Aaron serait sur le titre Conan le Barbare. Du coup. Comme on pouvait un peu s'y attendre, l'autre titre culte, Savage Sword of Conan, admirez ma super belle prononciation, on va encore une fois dire qu'il est tard, revient avec au scénario Gary Dugan, ben voilà, Gary Dugan qui était sur les Gardiens, il passe sur Conan, Ron Garney au dessin, avec Richard Isanoff aux couleurs, et puis on a une superbe couverture, enfin superbe, plutôt classique, quoi, d'Alex Ross. Et moi, je m'interroge un peu quand même, parce que si le but de Savage Sword, c'est de nouveau de proposer des adaptations des récits déjà vus, bah mince quoi. Il y a certains récits là, ça va être la 4 ou 5e fois qu'ils sont adaptés, il va falloir passer à autre chose quoi.
Bah, écrivez du nouveau
Oui,
Conan.
voilà, ouais. Surtout que je suis dubitatif, parce que Savage Sword, la différence à l'époque entre Conan le Barbare et Savage Sword, c'était que Savage Sword, c'était en noir et blanc. Pour avoir des adaptations plus fidèles et surtout plus viscérales, plus violentes. Là, ce sera en couleur. Là, vraiment, hormis si on a un titre sur la jeunesse et un titre sur la vieillesse ou quelque chose comme ça, voilà, deux titres, je suis un peu dubitatif, quoi. Surtout qu'en France, en ce moment, on a droit à des adaptations de différentes nouvelles par des équipes franco-belges. Ces 15 dernières années, on a eu des nouvelles adaptations, des nouvelles de Ward. Chez Dark Horse, Marvel, on a fait deux, voire trois, si on compte les comic strips par le passé, dans les années 70-80. Enfin, c'est quand même redondant s'ils se remettent à tout réadapter.
Ouais.
On n'a pas plus d'infos que ça. Je voulais quand même l'annoncer, quoi. Voilà, donc à suivre l'an prochain. Et du coup, on a encore une petite review. On vous en a déjà pas mal parlé. On revient sur les X-Men parce que bon, nous, les X-Men, ça reste quand même notre premier amour comics, quoi. Hein. On revient toujours à ses premiers amours.
Bah, faut dire que c'est l'event actuel chez Marvel, hein, de toute
Oui.
façon, l'un des events, donc.
Ouais, et que je sais que toi comme moi, on aime bien. Ça nous réconcilie un peu avec la franchise. Donc, Extermination 3. Mon cher Jonath, je t'en prie, vas-y.
Alors, Extermination 3, bon, on va forcément vous spoiler les deux premiers épisodes, donc si vous ne voulez pas écouter, enfin, si vous voulez découvrir ça à partir du numéro 1, vous voulez pas être spoilé, bah, faites un petit saut, hein, un saut dans le temps, dans ce podcast.
Évitez de faire un petit somme quand même parce que vous risqueriez de louper la suite.
C'est ça. Donc, pour le reste, bah, écoutez, Extermination 3, ça suit les événements des deux premiers, donc grosso modo. On a les X-Men, donc les différentes équipes, Blue, Gold, Red, Verte, Violette, qui sont attaquées de toutes parts. Donc d'un côté par Akab et ses Fury, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ses Fury qu'ils appellent pas comme ça. Je sais plus. Bon, enfin, c'est chiant, cette espèce
Les
de.
Hounds, je crois, non?
Ouais,
C'est
voilà,
les
c'est
limiers
Crow,
en
voilà.
français, il me semble.
Ouais, c'est limier, voilà. Les Hounds, c'est Crow,
Bah,
putain, bon, c'est pas
oui,
grave.
bah, c'est une bonne
Peu
traduction
importe.
d'ailleurs pour le coup. Voilà quoi. Le Hounds, c'est un chien féroce qu'on peut utiliser comme limier.
C'est ça. Et donc, c'est un chien de chasse. Et donc, du coup, Akab attaque les X-Men, s'en prend à eux, essaye de les tuer, notamment les. On imagine les jeunes X-Men, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et il se trouve que en réalité, il y a bien des jeunes X-Men qui sont assassinés, enfin, qui sont assassinés, qui sont littéralement attaqués. Donc, dans le numéro 1. On a eu Iceman, me semble-t-il, qui a été tout simplement enlevé par une personne qu'on ne connaît pas, qui semble, elle, bien bien connaître Cable, qui est intervenu pour sauver Iceman. Et cette personne-là a tué tout simplement Cable. Le cliffhanger du numéro 1, c'était justement qu'on découvrait que cette personne qui avait enlevé le jeune Iceman était tout simplement un jeune Cable. De quelle époque, de quelle réalité alternative, ça je ne sais pas, parce que ça me paraît bien compliqué que ce soit le même, tu vois, un Cable de cet univers 616-là, quoi,
Surtout
ça
qu'on
m'a.
n'était pas d'accord. Moi, j'avais l'impression que c'était un adolescent. Toi, tu me disais, non, non, il a l'air jeune adulte. C'est plutôt le Cable qui a déjà été élevé par Scott et Jean. Donc, ouais, même pour ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, il a le vaisseau,
Le quoi
le professeur, hein, c'est ça? Non, je ne sais plus.
Ouais,
Oui,
professeur.
voilà, ouais. Il a d'ailleurs le vaisseau qu'on connaît de Cable. Enfin, voilà, de ce côté-là, c'est comme ACAB d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est l'ACAB de Days of Future Past ou un autre? On reste quand même flou là-dessus. Hein.
Voilà, on reste flou. L'épisode 2, c'est un peu la même lignée toujours, mais cette fois-ci, c'est au lieu que ce soit Iceman, c'est cette fois-ci le fob. Non, c'est Angel. C'est Angel qui est enlevé par le jeune câble. Et donc l'épisode 3, bah pareil, ça suit un peu ça suit un peu cette trame-là. Et je crois que cette fois-ci, c'est plus Fauve qui est le Fauve qui est
Ouais.
mais voilà qui est le qui est attaqué par le jeune Cable. Donc voilà, c'est globalement je trouve c'est un très bon crossover, quoi. C'est pas mal du tout, c'est bien
C'est
dynamique. Il y a
palpitant.
pas de temps mort. Ouais.
Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Messiah Complex. Un ennemi qui attaque les X-Men dans tous les sens, il y a toutes les équipes qui sont à peu près concernées. Ça aide à remettre un peu les choses à plat aussi. Il y a ce sentiment d'urgence. En plus, bon, il y a Hope Summers qui intervient. Ça renvoie aussi un peu indirectement à ça. Enfin, vraiment, ça me refait penser à ça.
Mais il y a aussi, voilà, comme dit le fait que sont attaqués sur qu'ils soient attaqués sur deux fronts justifie un petit peu la réunion des différentes équipes X-Men, et donc ce maillage préfigure bien ce qui sera la relance des X-Men avec la ressortie d'Uncanny, quoi, et les nouvelles équipes, quoi. Les nouveaux line-up, donc on peut aussi l'expliquer comme ça, quoi. Ça me fait un peu penser, si tu veux, à la période un peu Genosha, quoi, tu vois, avant Avant que bah il y ait la relance, enfin la relance, il y ait les deux titres X-Men, la Blue Team et la Gold Team, quoi, tu
Ouais.
vois, avec vraiment ces différentes équipes qui enfin tout les différentes X-Men qui se réunissent, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais, bah écoute, moi je suis enthousiaste comme toi, vraiment, ça, je trouve ça palpitant, ouais, le mot est peut-être un peu fort, mais vraiment, ça me redonne envie de lire du X-Men.
C'est une bonne lecture, voilà, c'est une lecture sympathique, c'est voilà.
Ça me redonne bon espoir pour la suite. Alors on verra ce que donnera Uncanny, mais clairement, ça remet un peu le pied à l'étrier pour les gens qui ont lâché l'affaire depuis quelque temps.
Peut-être pu éviter de tuer Cable au passage, bon voilà.
Qui croit vraiment que Cable restera mort?
Mais non, il est jamais mort, il est mort 850 000 fois déjà,
Et
donc.
voilà, il est trop fort, Cable, il revient toujours. On finit toujours par le rebrancher.
Par contre, on remarquera que Hope, Rachel, Jean, et Scott, on n'en parle même plus maintenant, arrivent toujours après la bataille. Hein, chaque fois qu'il est en train de crever ou à peine, jamais ils arrivent avant, quoi, pour
Oh
le sauver,
oui,
quoi.
c'est...
Ah, la famille Summers, hein, je te dis vraiment.
Oui, ils ont toujours un train de retard, quoi. C'est à eux qu'il faudrait donner une machine à voyager dans le temps, je pense.
Oui.
Et alors donc justement, tu parles de Scott, mais il y a une petite rumeur par rapport à un certain Scott, et peut-être pas celui qu'on pense, n'est-ce pas?
Oui, puisque visiblement, du côté. Alors, c'était à la New York Comic Con, hein, sur le panel X-Men, et on nous a très clairement teasé un retour futur du Scott Summers. Alors, j'ai envie de dire original, enfin, en tout cas celui qui était mort dans les événements d'Ivy X. Donc voilà, il pourrait faire son retour. Alors c'est marrant parce que, étant parlé avant l'émission, on a eu le retour de Jean Grey, on va avoir le retour bientôt de Wolverine, si c'est pas déjà fait.
On a eu celui du professeur X, même si tout le monde s'en fout.
Donc maintenant c'est au tour de Scott, donc voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas une franchise ciné qui reviendrait chez Disney, chez le MCU?
Ah non,
Je
je
sais
vois pas.
pas.
Je vois pas, non, 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 non,
Non,
non.
non, donc
Moi, ce que je
voilà.
vois, c'est qu'il y a surtout un film qui arrête pas d'être repoussé.
Ah oui, avec une bande-annonce qui fait furieusement penser et inquiète beaucoup par rapport à comment dire, la comparaison avec X-Men Last Stand.
Ouais,
Donc.
oui. Ben, déjà, Apocalypse, c'était pas terrible. Là, c'est. Comment il s'appelle celui qui réalise Dark Phoenix? C'est le scénariste.
Kimberg, Simon
Ouais,
Kimberg, ouais.
je crois que c'est la première fois qu'il réalise. C'est jamais très, très
Après,
bon, ça.
il était au scénario de First Class.
Ouais, mais bon,
Bon.
entre écrire et scénariser et
C'est
réaliser, c'est pas la même
vrai,
chose.
c'est vrai.
C'est une autre paire de manches. Ouais, bon,
Il
on
était au
verra.
scénario de la Sting, hein, de la Stand.
Oui, bon. Bon, ça, on ferme la parenthèse cinéma, mais donc voilà, peut-être que Cyclope va revenir. Est-ce que, alors ça, c'est
Parce
le
qu'il est
genre de
sur la
discussion.
couverture, en fait, il est sur la couverture de l'annuel de Uncanny X-Men numéro 1, écrit par Ed Brisson et Carlos Gomez au dessin, donc. Les gens se demanderaient, tiens,
Voilà.
est-ce que c'est
Un
est-ce que
flashback ou un retour?
ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, en fait, c'est une couverture avec toutes les versions de Cyclope qu'on a pu avoir, quoi.
Ouais.
Alors celle du Cyclope originel, je dirais, enfin celle du Cyclope sous Claremont de enfin de même pas de Claremont de Dave Cochrane et Len Wein dans New, enfin la
Oui,
relance de
bien
New
sûr. Oui.
X.
On
Et
a les
puis
costumes de X-Factor.
X-Factor, ouais, c'est ça, tous les costumes d'ailleurs d'X-Factor.
Oui.
Donc.
Il y a même les deux versions du costume inventé par Cassaday. Enfin, vraiment, on a vraiment un peu tout, quoi.
Y a que la version de New X-Men par Grant Morrison qui n'y est pas, bizarrement.
Je
Je me
regarde,
demande
j'essaie
pourquoi.
d'agrandir l'image justement. Ah, tu penses qu'il y a une vraie raison?
Bah, parce que il faut mettre ça sous le tapis, tout simplement.
Ah ben non, c'est pas. Non, 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 il est là, regarde. C'est lui qui tient le Scott, la version Chris
Non,
Bacano.
non, 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 je ne le
Celui?
vois pas, je ne le vois pas. Hein.
Ah d'accord, ok, oui, t'as mis tes lunettes anti-Quietly, toi. Ah,
Je sais pas.
je te méprise, monsieur Jonath. Vraiment, là, pendant une minute, tu auras juste mon mépris. Puis après, t'inquiète pas, Je te considérerai à nouveau comme une personne à peu près normale.
Ben, il faut bien parce qu'il faut le finir ce podcast.
Oui, donc bon, on en a fini avec Marvel. On va
Voilà.
passer à DC. Alors, on va être assez rapide sur DC. On va garder pas mal de news sorties à la New York Comic Con pour les sollicitations de janvier. Mais quand même, on va quand même pas oublier celle de décembre. Et puis, les news les plus marquantes, on en parlera. Alors, ces petites sollicitations de décembre, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben déjà, on peut voir que le Martian Manhunter revient à nouveau. Alors bon, il revient dans une série écrite par Steve Orlando, donc du coup, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est lui rendre honneur, mais au moins la couverture est sympa. Riley Rossmo est au dessin et à la couverture, et j'aime beaucoup la couverture. Avec vraiment, il a une tête qui fait très alien pour le coup. Et alors rien que quand on voit la couverture, on le voit en costume super-héroïque, mais avec son badge de flic autour du cou, donc. On se dit que ça va être une série qui veut renouer avec sans doute les origines du Martien. Donc voilà, on parle, la situation parle d'une enquête sur un meurtre et que visiblement ça aura un lien avec ses origines martiennes. On verra, mais bon, moi Steve Orlando, c'est quand même pas trop ma came, quoi.
Non.
Il n'a encore rien fait qui vraiment. Alors je suis doublement triste parce que déjà Steve Orlando, bon, j'aurais bien lui donné sa chance, mais à chaque fois c'est pas terrible. Et puis le pauvre Martien, quoi. Quand aura-t-il enfin une série à sa hauteur? Je sais pas si c'est jamais arrivé, c'est triste quand même.
Peut-être qu'il n'y a pas un public pour ça, tout simplement, hein.
Je sais pas, parce que bon, Aquaman a quand même eu des fulgurances par moment, mais le Martien, vraiment, mettez un Bendis ou un Geoff Jones ou quelqu'un comme ça dessus pour que ça vende, quoi. Je sais pas, faites
Ouais,
quelque chose.
sortez Bendis de Superman, mettez-lui sur Martian Manhunter.
Mais
Allez, prouve-nous que tu
oui!
peux relancer le personnage et après on te donnera quelque chose d'intéressant.
Mais oui, voilà, un alien surpuissant qui cherche sa place sur Terre, qui a perdu sa famille. En plus, t'as même pas besoin de chercher à la faire revenir. Elle est morte, c'est bon. Ouais, bon. Bon, on verra, hein. On verra. Il y a aussi, on en a déjà parlé de Batman the Outsiders. Donc, le numéro 1 sort ce mois-là, on va pas en reparler.
On a Batman Wolof, écrit par Scott Snyder avec une couverture de Jock.
Et puis les dessins de Joke. Donc rien que pour
De
ça
Jock, oui.
mérite d'aller le voir. Ouais, le Batman Kiri.
Ben, le tandem de Black Mirror.
Tout à fait, oui, le tandem de Black Mirror qui reprend un des Batman les plus marquants, au moins visuellement, de métal, du coup.
Oui, bon. Mais toi, j'ai pas trop suivi, donc je vois pas.
Oui, bon, moi non plus. Donc, j'attends que ça se finisse en VF pour me les faire. Au niveau des numéros 1, on a Freedom Fighters, écrit par Venditti, Robert de son prénom, et dessiné par Eddie Barrows. Voilà, Oncle Sam et toute son équipe basée sur la Terre 10 qui combat les nazis, vu qu'ici les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on nous annonce une storyline de 12 numéros. Est-ce que la série est prévue pour en faire 12 et s'arrêter ou est-ce que ça continuera après on verra, toujours est-il que. Voilà, donc le combat contre les nazis ne s'arrête jamais, il continuera toujours jusqu'au bout. On a aussi Goddess Mode, écrit par Zoé Quinn et dessiné par Robbie Rodriguez, et non pas Robbie Anderson ou Robinson ou je ne sais quoi. Alors, on en a déjà parlé, je crois, de Goddess Mode, non? Ou pas du tout?
Ça me dit rien.
Non,
Donc
alors
pour le moment,
là,
non.
ça nous parle d'intelligence artificielle et. Voilà, bon, je sais pas trop de quoi ça parle. C'est pour rester dans le trip, tiens, du What If sur les X-Men. Non, globalement, honnêtement, là, je regarde les numéros 1, parce que je les avais plus en tête, mais il y a rien par rapport aux autres numéros, aux séries qui continuent. Moi, il y a rien vraiment
Non.
qui m'accroche dans ces sollicitations, quoi.
DC, voilà, ne fait pas comme Marvel, de toute façon, des relances. Il y a beaucoup de titres qui continuent, quoi, du Rebirth, quoi, tu
Oui,
vois.
oui.
Donc,
Bon, il y a beaucoup de numéros, Shazam numéro 2, Superman numéro 6. C'est pas de la grosse numérotation non plus. Hein. C'est aussi que bah, moi, de toute façon, je le dis à chaque fois, je suis plus un lecteur Marvel que DC. DC, c'est plus. Voilà, je vais plus suivre mensuellement Marvel et DC, je vais plutôt rattraper ça par la suite quand les choses sont terminées et collectées. D'où le fait que je m'intéresse aussi un peu moins à l'actualité directe. Mais c'est vrai que même mine de rien, numéro 1 ou pas, on n'a pas vraiment de grosses annonces quoi, pour ce mois-là. Rien, il n'y a pas de gros arcs ou de choses comme
après,
ça, tu vois.
le mois de décembre en général, bon,
Oui, voilà.
il n'y a pas grand-chose non plus, quoi.
Ouais, en général, c'est plutôt calme, quoi. Surtout les dernières semaines.
Ouais.
Par contre, on va peut-être s'intéresser du coup à quelques annonces de la New York Comic Con qui nous ont marqué. Alors toi, il y a quoi qui t'a marqué dans ces annonces? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment pour toi a retenu ton attention?
Bon bah on a notamment, alors je sais pas si ça m'a plus retenu l'attention ou autre, mais on a quand même l'annonce d'un Flash Year One. Qui revisitera les origines de Barry Allen, pardon. Joshua Williamson sur le panel de DC World Finest à la Comic Con a révélé que 2019 ce sera l'année de Flash Year One. Il a indiqué que la Year One Story serait pourrait prendre place en fait dans le titre ongoing de Flash, vers le printemps 2019. Ça va revenir un peu du début de la mort de la mère de Barry jusqu'au fait d'avoir ses pouvoirs. C'est le voyage de ces événements-là vers le héros qu'on connaît maintenant, quoi. Oui, très clairement, un Flash Year One. Alors, est-ce qu'on avait besoin? Très franchement, je sais pas parce que.
Mais non, voyons, il y a la série télé qui le fait très bien, tout ça.
Pas déshonorante au
Non, non,
démarrant, hein,
non.
la série télé, hein, qui a peut-être pas que du bon, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Mais c'est vrai que tu vois, Year One, moi je trouve que ça marche mieux sur quelqu'un comme Batman, si tu veux, qui n'ayant pas de pouvoir, a eu besoin de se construire véritablement pour se développer en tant que détective, en tant que spécialiste des arts martiaux, tu vois. Tu peux comprendre que tu es ce voyage-là, quoi, entre guillemets, quoi. Du garçon qui voit ses parents assassinés dans Crime Alley vers le héros débutant, quoi. Alors que Flash, pour le coup, bon, oui, certes. On va apprendre, on va voir sa découverte des pouvoirs, comment il a vécu le deuil de sa mère, mais je trouve que c'est toujours plus facile de toute façon de gérer des super-héros sans pouvoir, quoi, qu'avec pouvoir, quoi, tu vois. Dans l'intérêt que tu peux donner une série, quoi. Parce que forcément, on va pas faire qu'une série, enfin qu'un ongoing avec Flash qui court après des voleurs, quoi, tu vois, ou qui courent sur un tapis roulant, quoi. J'imagine qu'il y aura forcément une introduction ou vraiment un vrai antagoniste à super pouvoir. Je sais pas si des Year One se prêtent bien à quelqu'un comme Flash, quoi. Bon,
Bon,
on verra bien,
surtout
hein.
que Geoff Johns, quand il avait fait Flash Rebirth, c'était pas DC Rebirth, hein, mais la
Flash
mini-série quand
Reverse.
Flash était revenu à la fin des années 2000. Est-ce qu'il n'était pas revenu déjà à ce moment-là sur les origines de Barry Allen?
Je pourrais pas dire, mais c'est fort possible puisque Geoff Johns avait écrit pendant un bon moment de toute façon Wally West.
Oui.
Donc on peut se douter que oui, il a dû réintroduire le personnage. C'est pas impossible, ça me dit quelque chose, mais j'en suis pas sûr.
Oui, surtout que c'est lui qui a retconné en fait la continuité en rajoutant le meurtre de la mère. Ouais. Ouais, bon, on verra. Après, les aperçus, on en a déjà eu deux et c'est assez sympa. J'aime beaucoup l'image de Flash qui a l'air un peu en mode street dans son
Oui.
costume et qui a tagué un grand éclair. C'est assez stylisé.
C'est vrai que si le dessin, voilà, le dessin peut jouer. Si c'est cette ambiance-là qu'on a, si c'est pas que des visuels, tu vois, de cover ou comme ça peut être pas mal, quoi.
Oh ouais, ça peut avoir de la gueule, ouais.
Et puis c'est quand même Joshua Williamson au scénario et depuis qu'il a repris Flash donc pour le Rebirth, de toute façon, c'est quand même Flash grosse vraiment l'une des locomotives du DC Rebirth. Hein, c'est toujours
Ouais, totalement.
globalement de la bonne qualité, quoi.
Oui, il ne soit pas trop flash. Ça reste très sympa à lire. Même depuis, alors, même s'il n'y a pas eu que des choses excellentes, mais même depuis la relance de New 52, Flash, ça oscille entre le très bon et le sympa. Globalement, c'est toujours une
Ça
valeur
a
sûre.
peut-être été, comme pour tout le monde, ça a été plus dur sur la fin du New 52. Mais là, ça fait plus de 50 épisodes, 56 je crois sur Flash Rebirth, ou 57, et c'est quand même toujours vraiment intéressant, quoi. Et avec un supporting cast en plus qui se développe et qui est intéressant, quoi.
Ouais. Alors, au niveau des annonces, DC continue dans leur folie des labels. Il y a je ne sais plus combien de labels chez DC. Ça ne peut rien y
8.
comprendre. Ouais, environ. Et puis surtout, en plus, certains labels, ce sont des titres qui restent en continuité. Comme le nouveau label Wonder Comics, qui sera chapeauté par nul autre que Bendis. Alors ça, et Bendis, chez DC, là, il fait 1 milliard de projets à la fois. On est rassuré, hein. C'est bien le même Bendis que chez Marvel qui est sur trop de choses à la fois pour assez se concentrer sur ce qu'il fait déjà. Il écrira pas tout, mais il va écrire le titre principal qui est Young Justice, et un titre qui sera en continuité. Clairement, donc à côté des Teen Titans, on aura le titre Young Justice. Alors pour le coup, c'est la composition tend quand même à retrouver la composition classique de ce titre. puisqu'on aura Bart Allen qui retrouve le costume et l'identité
Impulse.
d'Impulse, voilà. Connor Kent en Superboy. Alors, la continuité de Connor Kent depuis les New 52, c'est un peu le bazar. Je ne sais pas s'il est encore censé être mort ou pas, on verra bien. Et Tim Drake retrouve son costume et son identité de Robin. Ça y est, on aura alors. Est-ce qu'on aura deux Robins ou est-ce que Damian aura une autre identité? On verra bien. On annonce aussi que il y aura Wonder Girl qui sera de la partie et un nouveau personnage, Teen Lantern, un jeune Green Lantern. Alors moi, Teen Lantern, ça me rappelle. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Teen Lantern? Parce qu'en fait, ce pseudonyme n'est pas nouveau.
Non.
Alors,
Non, ça me dit rien.
À l'époque, alors les dessins c'était Barry Kitson et ça devait être Mark Waid au scénario, à vérifier. C'était à l'époque où on avait eu la mini-série. Alors en France, ils ont ressorti ça alors qu'on avait eu le tome 0 de Giella qui reprenait la mini-série Year One. On avait eu aussi, Urban avait ressorti en kiosque une mini-série Flash Green Lantern. C'était les team-up entre Flash et Green Lantern à travers les âges. Ou alors c'est juste des histoires de Flash, dont un team-up de Green Lantern, j'ai un doute maintenant. Et il y avait une histoire située dans le passé où Wally West et Barry Allen faisaient équipe avec Hal Jordan et où ils avaient perdu leur pouvoir. Et du coup, Hal Jordan donnait un anneau à Wally qui devenait Teen Lantern le temps d'un épisode. Et Barry avait des grosses sueurs. Oh non, maintenant que Wally a des meilleurs pouvoirs que cette Flash, il voudra plus redevenir mon sidekick, blablabla. Enfin, un comics des années 90, écrit comme un comics des années 60, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que le titre, enfin le nom Teen Lantern n'est pas tout à fait nouveau, mais ce sera sans doute totalement autre chose. D'ailleurs, je crois que ce sera une Green Lantern féminine ici. Alors, moi je suis assez curieux. Bendis, lorsqu'il est venu chez DC, j'espérais qu'il écrit les titres Teen, parce qu'au final, ce que j'ai préféré de lui chez Marvel, hormis Daredevil et les débuts de Jessica Jones, c'était sans doute ce qu'il avait fait sur Ultimate Spider-Man, que ce soit Peter Parker ou Miles Morales. J'espérais le voir sur Teen Titan, ou alors, qui sait, pourquoi pas reprendre Cyborg. Là, il va reprendre la Young Justice. Ouais, pourquoi pas. Je suis curieux. On verra. Surtout qu'avec le Rebirth qui est passé par là, il a quand même les mains pas mal libres au niveau de la continuité. Donc, à voir, avec Patrick Gleason au dessin. Toi, ça t'intéresse ou pas du tout?
J'ai jamais été trop fan des titres enfin pas Teen Titans mais disons Young Justice tout ça avec les équipes de jeunes. Quand c'était les Teen Titans, tu vois, version Mark Wolfman, George Pérez, tout ça, j'aimais assez parce que c'était à l'époque c'était une vraie comment on pourrait dire alternative de DC aux X-Men quelque part d'une certaine manière et là je trouve que le line-up qui est présenté est, enfin c'est pas pour faire le vieux con mais trop jeune entre guillemets pour ce que j'ai envie de lire quoi tu
Oui,
vois
ben c'est une question de ce que tu recherches comme expérience de lecteur, hein, il n'y a pas de mal à ça.
moi comme je fais toujours de toute façon je vais lire le premier numéro et je vais voir hein. De toute façon on sait jamais on sait jamais.
Ouais, ça se trouve, ce sera pas mal. Voilà, laisse en lui le bénéfice du doute. À côté de ça, trois autres séries sont déjà annoncées. Alors, un titre qui s'appelle Naomi, qui est écrit par Bendis, et un autre scénariste, David F. Walker, celui qui était sur Cyborg, justement, et ce sera dessiné par Jamal Eagle. Voilà, Bendis, faut qu'il arrête un peu parce qu'il commence à écrire beaucoup trop de choses. On a encore une relance de Jal H for Hero. Ce sera écrit par Sam Humphries et dessiné par Joe Quinones. Alors là, Jal H, on avait déjà eu une relance sur les New 52. Alors c'est toujours un personnage qui. Alors c'est quoi? C'est une cabine téléphonique ou un téléphone qui lui donne des super pouvoirs, c'est ça? En tout cas, ouais, c'est un personnage qui peut changer de pouvoir. Il fait un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Il a une autre identité. Enfin, c'est un concept qui invite à la création, quoi. Et on a un titre Wonder Twins, alors écrit par Mark Russell, qui avait déjà fait Prez, et dessiné par Stephen Byrne. Alors, tu connais Wonder Twins, je pense.
Oui, mais les Wonder Twins qui sont issus de la. Alors j'ai dit peut-être des bêtises, mais de Super Friends, c'est ça?
Exactement, oui. C'était
Ouais.
un frère et une sœur qui activent leur pouvoir en connectant leurs anneaux et ils ont un singe aussi avec eux. Donc voilà des personnages qui, à la base, sont issus des dessins animés qui. Et à chaque reboot d'ici, ils arrivent à faire leur chemin vers l'univers d'ici. On a beau les effacer de la continuité, ils reviennent toujours. Bon, voilà, des titres qu'on devine plutôt à destination des ados. On verra ce que ça donne, mais ça commence quand même à faire beaucoup de labels et de projets dans tous les sens chez DC, quoi. J'ai peur qu'ils se perdent un petit peu dans tous leurs projets.
Mais non.
On verra bien. Et je sais plus si j'ai dit quand ça sortira. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est tout du moins Young Justice, c'est début 2019. On n'a pas encore de date fixe. Alors, à côté de ça, on a quand même quelques lectures DC. Tu veux commencer avec Batman ou non?
Ouais, je vais faire un bloc
Vas-y.
Batman et Nightwing. Donc, je vais vous parler des donc dernier épisode. Faut que je trouve mes mots là. De Batman, donc ce qui était alors les numéros 55, 56 et le 57 qui est sorti. Qui est sorti aujourd'hui, que j'ai pris le temps de lire avant l'émission. Et donc, pour vous résumer sommairement, c'est tout simplement un arc en trois qui s'occupe d'un, en fait, clairement un affrontement entre Batman et Cage Beast. Alors, un Cage Beast qui n'a pas son. Qui n'a pas, si je puis dire, son costume habituel, quoi, hein, qu'on lui connaît.
Il est rouge son costume, c'est ça, non?
Non, il est noir un petit peu.
Ah, l'expert comics pour frapper.
Je crois que c'était dans les années 90, il me semble, qu'il a été introduit. Alors, je sais plus si on le voit dans Prodigal Son, le run.
c'est pas Encavidimon qui apparaît dans Prodigal Son? J'ai un doute, parce que...
Il me semble qu'on voit KGB dans Prodigal Son ou un peu avant en fait il est aux alentours des années où il y a merde Knightfall.
Ouais.
Voilà. Il apparaît là.
Ah,
Peut-être qu'il apparaît avant, mais
Alors, par contre, je regarde, KGB, oui, tu as raison, son costume est bleu noir, mais il y a des traits rouges. Et c'est Encavidimon qui a un petit peu plus de rouge sur son costume.
Et donc là, c'est une version de Cage Beast qui en fait, enfin, on le voit pas en costume. C'est un hitman, hein, très clairement. C'est un tueur à gages. Donc là, très clairement, il a un contrat. Il rentre aux États-Unis pour un contrat, hein, tout simplement. Et je crois que c'est à la fin du numéro 55, donc ça je pense que je peux vous le teaser. Ce tueur Cage Beast en fait est rentré aux États-Unis et finalement est positionné dans un immeuble et en fait avec un sniper hein, littéralement est en train de viser une scène et cette scène c'est tout simplement une discussion entre Gordon Batman et Nightwing sur le toit de donc dans le numéro dans c'est dans le numéro 55 ouais, sur le toit du commissariat parce que tout cet épisode 55 c'était un petit peu entre guillemets une réintroduction un petit peu de la mais déjà dans le numéro 54 c'était un petit peu une espèce d'anthologie sur la relation entre Dick et Batman depuis qu'il était Robin, même avant, quand Bruce le recueille. Et 55, c'est vraiment un épisode où on voit un team-up entre Batman et Nightwing. Et à la fin, on a Cage Beast qui tire une balle avec son sniper. Et la balle va directement dans la tête de Nightwing. Donc l'épisode se finit comme ça. Et donc du coup, l'épisode 56 et l'épisode 57, c'est vraiment la traque de Batman pour retrouver Cage Beast. Et vous verrez donc dans l'épisode 56 très clairement c'est un épisode qui se centre beaucoup sur le personnage de Cage Beast et notamment sa famille un petit peu de dérangée si je puis dire et l'épisode 57 on arrive un petit peu sur la confrontation quoi. Il n'y a pas de spoiler, c'est sur la première page de la couve quoi. Donc voilà, donc c'est un run qui enfin c'est trois un arc qui est pas mal du tout, je trouve. Plutôt intéressant, plutôt dynamique. Ça nous ouvre aussi sur une suite qui pourrait être intéressante. Et surtout, ça nous change tout simplement le statu quo de Dick Grayson et de Nightwing. Nouveau statu quo qu'on découvre donc dans les numéros que je vais vous parler maintenant, les numéros 50 et 51 de Nightwing. Où finalement, on en sait plus de ce qui s'est passé pour Dick avec cette balle qu'il a pris dans la tête. Il a survécu, on a pu retirer la balle, mais il a eu une amnésie, quoi.
D'accord.
Alors bien sûr, c'est très convenu, hein, forcément, il meurt pas, finalement il s'en sort, il a une amnésie. Grosso modo, Il sous-entend que Dick Grayson, qui maintenant désire se faire appeler Rick Grayson, donc le diminutif de Richard, non plus Dick, mais cette fois-ci Rick Grayson, pour bien faire la démarcaison, il sous-entend que il ne se souvient plus des 15 dernières années de sa vie.
Ok, d'accord.
Donc, il se souvient de quelques événements, mais pas de ce qui s'est passé les 15 dernières années. C'est pour ça que, notamment dans l'épisode 50, on a une grande discussion, enfin une discussion importante qu'il a avec Barbara Gordon, Bad Girl, qui veut savoir comment ça va, quoi. Alors, je sais pas du coup dans le Rebirth comment ça se passe, comment c'est au niveau de la Redcon, mais bon, ça semble quand même sous-entendre que Bad Girl a plus que des sentiments d'amitié vis-à-vis de lui. Il y a quand même toujours quelque chose, quoi. Elle a quand même toujours, voilà, des sentiments amoureux vis-à-vis de Dick. Et ça lui fait très mal de le voir, avec vraiment, tu vois, un espèce de crâne rasé, vraiment une attitude de redneck un peu débile, tu vois. Qui n'en a rien à foutre de rien. Il décide de devenir chauffeur de taxi. Enfin. Vraiment, il a totalement ab abandonné sa carrière de justicier. Il ne veut rien entendre de tout ça. Il veut pas discuter avec Bruce, rien. Et le problème, c'est qu'en parallèle, à Blue Devon, ça devient quand même un petit peu le bordel. Il y a en parallèle, alors c'est un peu de la retcon, mais on nous introduit un petit peu une comment dire, historiquement que l'épouvantail a développé une peur, une rivalité vis-à-vis de Robin. À l'époque où c'était Dick Grayson, et donc l'épouvantail s'est évidemment échappé d'Arkham, et on a l'impression que ça a l'air d'être sur le long terme le méchant de ce nouvel arc, finalement. Et probablement, on imagine celui qui va permettre à Dick ou Rick de revenir vers la lumière, entre guillemets. Mais voilà, c'est un Dick Grayson un peu tête à claque, qui dans le numéro du coup 51 a une discussion un petit peu avec un Alfred dans un bar où Rick a ses habitudes maintenant, qui voilà, ouais, il est pas très sympa avec Alfred, et il faut quand même quelqu'un pour sauver Blue Devon, hein, puisqu'il n'y a plus personne. La police impose à bois. Est-ce que quelqu'un va pas s'en charger? On ne sait pas. En tout cas, c'est intéressant, quoi. C'est comment, en fait, d'une certaine manière, ce qui se passe dans Batman a découlé dans Nightwing, et comment c'est lié. Ouais, c'est pas mal. C'est pas inintéressant, très
C'est
franchement.
moi où ils passent leur temps à tuer ou dénaturer Nightwing depuis des années, quoi. On avait déjà eu Nightwing qui se faisait passer pour mort et qui était devenu
Ouais.
agent de Spiral. Enfin,
C'était bien
c'était
ça.
bien. Ah
C'était
oui, non,
un.
je dis pas que c'est pas bien, mais
Ça, c'était. Ouais.
bon.
Grayson, c'était franchement super bien. Et je trouvais au contraire que c'était dommage qu'avec le. Alors, je sais plus si c'est avec le Rebirth. Du coup, oui, c'est avec le Rebirth. Il soit reparti sur un Nightwing classique, quoi, tu vois.
Ouais.
Parce que je trouvais que Grayson, c'était pour le coup, c'était une idée. On voyait pas d'où ça sortait. Et c'était
C'est vrai
plutôt
qu'au
cool,
début,
quoi.
beaucoup étaient dubitatifs et finalement, quand c'est sorti, la plupart des gens qui ont testé ont accroché à mort.
C'était génial, franchement, c'était super bien. D'une certaine manière, en plus, ça prenait la suite un petit peu de Batman Incorporated.
Bah oui.
Donc, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que le voir encore rendu à sa condition Nightwing, comme pour les New 52 du reste, hein, parce qu'on a les, comment dire, le Batman, enfin le Batman de Morrison, Batman et Robin avec Dick Grayson, et même Scott Snyder, qui avait fait quand même son excellent run, peut-être son meilleur run d'ailleurs sur Batman avec Black Mirror, où c'était Dick Grayson, et ça donnait envie de voir la suite, quoi, avec Dick Grayson en Batman, quoi, cette passation. Et c'est bien dommage de le voir, oui, effectivement, revenir à cette condition de Nightwing, et là en plus avoir cette caractérisation un petit peu, oui, comme je te dis, limite, ouais, limite connard, quoi, tu vois, limite un peu je m'en foutiste, j'en ai rien à branler de rien, bon, qui colle peut-être un peu avec un perso qui a envie de presque d'oublier, quoi, j'imagine, mais bon, ouais, c'est. Alors, c'est écrit par Ben Percy, hein, au passage, parce que j'ai oublié de le préciser. Voilà, donc c'est Ben Percy qui écrit ça, donc bon, écoute, on va voir la suite.
Est-ce que pour toi c'est un bon jumping point ce 50 de Nightwing ou pas? Est-ce que si on n'a pas suivi les 50 premiers numéros, on peut y aller là ou ça risque d'être compliqué quand même?
Oui, quand même. ça peut aller quoi. Je veux dire, honnêtement, ouais, non, c'est pas trop dur quoi.
D'accord,
Franchement,
ouais. Avec ce changement de statu quo et tout, ça peut être un bon moyen de prendre le train en
je
marche.
pense, je pense très clairement que ça peut marcher. Alors peut-être oui que, oh même pas parce que le début du 50, tu vois, on nous rappelle quand même un petit peu ce qui s'est ce qui s'est passé dans le numéro le numéro, enfin tu sais ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là quoi. Alors à noter que sur le 51, la deuxième partie donc de ce nouvel arc qui s'appelle Night Terrors, on a compris où on en vient encore une fois, il est écrit par Scott Lobdell avec Fabienne
D'accord.
Nicizia qui vient l'aider quoi. Et Travis Moore et Gary Brown au dessin. Mais bon, je voulais juste voilà noter le retour un petit peu du duo Lobdell-Nicizia qui fera plaisir aux nostalgiques des années 90.
Et notamment des
C'est
X-Men.
ça. Voilà.
Ok, merci pour cette review. Alors, c'est vrai que cette couverture de Nightwing avec Dick, pardon, Rick, qui a le crâne rasé de côté avec l'impact de la balle avait pas mal fait jaser. Et donc, je n'étais pas au courant du tout de ce qui lui arrivait et tu m'as vraiment mis l'eau à la bouche. Alors, à côté de ça, on avait une autre grosse sortie ce mois-ci, quelque chose qui avait été scruté avec attention et dont on avait déjà parlé nous-mêmes par le passé. C'est le premier épisode de Heroes in Crisis, écrit par Tom King et dessiné par Clayman. Alors ça me fait très plaisir de voir Clayman sur un projet de premier plan, parce que c'est vraiment un dessinateur dont j'ai repéré le trait dès qu'il a commencé à émerger. Alors c'était chez Marvel à l'époque, si je dis pas de bêtises, et qui pour moi je disais, ah lui, il va se perfectionner et il risque de se faire remarquer. Et c'est ce qui a l'air de se passer, donc je suis très content. Donc Heroes in Crisis, c'était ce projet un peu mystérieux, et en même temps, bon, chez DC, quand un Crisis dans un nom,
Oui.
ça fait tout de suite penser aux grandes, grandes épopées cosmiques. Même si, en fait, il y a quand même eu Identity Crisis qui était, même si ça concernait tous les héros d'ici qui étaient basés sur Terre, ça restait quand même quelque chose un peu à hauteur d'homme finalement, parce qu'il y avait une histoire de meurtre, d'enquête et tout. Et ici, semble-t-il, on va plutôt se diriger vers ça. Quoique, bon, pas d'anti-monitor ou je ne sais quoi ici, mais. Y aura-t-il du cosmique plus tard? À voir. Alors donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un sanctuaire qui a été créé par la Justice League, a priori sans qu'on le sache, pour recueillir les super-héros qui ont été traumatisés, qui ont donc des syndromes post-traumatiques, et les aider à se retaper, à se remettre sur pied. Et au début du récit, cette base est déjà bien installée depuis un moment, et on retrouve Harley Quinn et Booster Gold qui se retrouvent dans un diner au bord de la route, et visiblement il s'est passé quelque chose de terrible, et en parallèle, on suit Batman, Superman et Wonder Woman qui enquêtent, et qui se rendent compte que les choses n'ont peut-être pas si bien tourné que ça dans leur sanctuaire. Alors je suis assez surpris, hein, je m'attendais pas du tout à ce qu'on découvre tout ça, parce que bon, la série a quand même été vendue sur le fait qu'il y aurait un meurtre, et avec une liste de personnages potentiellement décédés, dont Booster Gold et Harley, bon on n'y croyait pas trop, parce que on nous avait annoncé dès le début qu'ils seraient au centre de l'intrigue. Mais il y a quand même des noms, des assez gros noms, hein. Il y avait Wally West, Arsenal, Cyborg, il me semble, Tim Drake aussi, enfin. Alors, qui a été. Est-ce que l'un ou plusieurs de ces personnages ont été assassinés ici? À vous de voir. Alors, moi, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un petit retournement de situation qui change pas mal ce qu'on voit dans ce numéro. Je reste très cryptique parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, hein. Là, vraiment, ce serait dommage. Mais étant donné que l'un des personnages centraux est Booster Gold, on sait qu'avec lui, ce qui est écrit n'est pas gravé dans le marbre, quoi, si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
À mon avis, je m'attends à ce que dans un ou plusieurs numéros, on ait un petit retournement de situation par rapport à ça. Ça expliquerait aussi pourquoi on commence un récit avec des événements qui sont déjà passés et qu'on découvre après coup, quoi. Ça m'a assez intrigué pour que j'y retourne. Vraiment, bon numéro 1. Moi, ça m'a bien, bien capté. En plus, même si, comme beaucoup de gens, j'ai des réserves sur la fin d'Identity Crisis, c'est un événement qui m'avait scotché à l'époque, vraiment, hein. Si on arrive à retrouver cette qualité-là, je serais preneur.
Comme toi, hein, le numéro 1 est très prenant, très très intéressant. Alors je suis toujours un peu réticent à une surexposition d'Harley Quinn, mais honnêtement, ouais, c'était très bien quoi. Je trouve que c'est un très bon premier numéro. pour le coup.
Enfin, Booster Gold va peut-être retrouver ses lettres de noblesse. Harley Quinn, pour le coup, ben, le scénario justifie qu'on la retrouve dans un titre avec des gentils. Voilà quoi, c'est pas la Suicide Squad, donc comment justifier qu'elle soit là, qu'elle interagisse avec eux? Ben là, le scénario le justifie. Et puis Clayman, pas mal du tout les dessins, vraiment.
Oui.
Pour le coup, bonne pioche. Hein.
Super.
Il correspond bien. Donc voilà, moi j'en dis pas plus. Allez vous faire une opinion. C'est un titre aussi qui ravira les amateurs de personnages obscurs et les persos qu'on n'a sans doute pas vus dans les Rebirths ni dans le New 52, voire même depuis un moment qui apparaissent là. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller d'y aller. Gros coup de cœur chez DC ce mois-ci. Et je peux pas en dire autant de l'autre titre que j'ai commencé, que j'ai pas eu le temps de finir, qui est Justice League Odyssey, dessiné par, comment il s'appelle, par Stefan Sejic, dessinateur que vous avez peut-être pu voir sur, alors il a fait Rat Queens, il a fait Sunstone, publié chez Panini. Donc voilà, série qui aurait dû sortir en juillet et qui a été repoussée parce qu'il a dû redessiner combien? Trois épisodes, je crois, non? Quelque chose comme ça? Enfin, elle avait dû entièrement redessiner deux ou trois épisodes, du coup, déjà que c'est pas un rapide, mais quand on voit la gueule de ses planches, c'est normal que ce soit pas un rapide parce que c'est magnifique. Et donc, série qui a été bien repoussée et qu'on découvre enfin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la Justice League de l'espace. D'un côté, on a eu la relance Justice League Dark avec une Justice League Mystique. Là, c'est la Justice League de l'espace, avec un casting super, super hétéroclite, quoi. Alors, on a du Green Lantern dans le tas, c'est normal, hein, c'est l'espace. On a Cyborg, pourquoi pas? Et on a des personnages, par exemple, Azrael. Azrael, personnage lié à Batman et à la limite lié à l'occulte, qui aurait pu plutôt être d'un côté du côté dark, mais on le retrouve là. Bon, on a aussi Starfire, personnage extraterrestre, donc c'est normal qu'elle soit là. Pour les Green Lantern, j'ai pas dit, c'est Jessica Cruz. Et on a Darkseid. Voilà, le membre un peu, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc Darkseid, qui a pas mal changé et qui est de retour ici. Alors cette série découle, bah, comme Justice League Dark d'ailleurs, et Justice League découle de la mini-série No Justice, ce qui justifie aussi le fait de pourquoi Cyborg ou Azrael sont ici, hein, c'est lié à ça. Alors globalement, bon, je n'ai lu que le début, j'ai pas eu le temps de tout lire. Au niveau du scénario, c'est magnifique. Pas au niveau du scénario, pardon, au niveau des dessins, c'est magnifique. Au niveau du scénario, je trouve ça laborieux. Je vais finir le numéro et je vais sans doute continuer un peu, mais sans les beaux dessins, clairement, je continuerai pas, quoi. C'est vraiment un hein, doit faire ses preuves. Bon, j'en dis pas plus parce que je l'ai pas terminé, mais j'ai trouvé ça un peu poussif, quoi, un peu laborieux, un peu pénible à lire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur DC. Ok, bon bah on va passer à la partie indé. Veux-tu commencer par une petite review pour se mettre en jambes ou on commence par le peu de news qu'on a?
Comme tu veux, si tu veux que je fasse une review.
Bon, je vais faire une petite news, allez, je suis lancé, t'as pas mal
Vas-y.
parlé avant toi, donc notamment avec Batman et Nightwing. Alors, un duo qu'on aime bien, Ed Brubaker et Sean Phillips, on avait annoncé qu'ils allaient sortir un graphic novel, d'ailleurs leur premier graphic novel, My Heroes Have Always Been Junkies. De mémoire, une jeune fille qui se rend compte que les rockstars et toutes les personnes qu'on admire ado ben, sont souvent des gros drogués. Et après cela, le duo va relancer Criminal, qui revient très vite l'an prochain, et ils annoncent le retour d'une série régulière. Donc a priori, on est parti pour avoir une bonne dose de Criminal. Et au passage, le graphic novel sur les héros drogués, là, sera inclus dans la continuité de Criminals car le personnage principal réapparaîtra dans Criminal. À côté de ça, on a Aftershock, donc petit éditeur, enfin petit éditeur tout indé qui se fait une petite place tranquillement depuis un bon moment sur les étagères des kiosques VO. Et on annonce deux nouveaux graphic novels. Alors, il y en a écrit par Garth Ennis, qui sera accompagné de Keith Byrne au dessin. Et Garth Ennis, grand, grand, grand amateur de récits de guerre, bah, nouvelle histoire de guerre, Out of the Blue, qui parlera de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va suivre des pilotes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, Marguerite Bennett. Alors, Marguerite Bennett, son titre Animosity, il me semble que ça sort justement sur Aftershock, sera accompagnée bah, d'une dessinatrice française, Leila Lays, sur un titre qui s'appelle Horde. et qui parlera du. C'est une histoire de maison hantée, d'une jeune fille qui retrouve avec sa mère, va devoir affronter des esprits ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, un graphic novel qui sortira à l'été prochain, tout comme celui de Garcenis. Alors, est-ce que ça te dirait de faire une petite review?
Si tu veux.
Alors, vas-y, je te laisse choisir.
Bon, alors je vais vite faire Farmhand numéro 4, mais juste pour vous dire que vous pouvez vraiment continuer cette série. Alors je vais pas trop spoiler parce que bon bah on a Marty qui l'a pas lu justement, donc je vais l'éviter pour lui. Mais continuez de vraiment lire cette émission
Je te remercie cordialement du fond du cœur.
qui est écrit donc par Rob Guillory, et dessiné évidemment, et qui reste un peu dans cet univers, un petit peu de cette ferme enchantée, si je puis dire. Cette ferme,
C'est pas trop le
oui,
Jardin des Merveilles, quoi.
voilà, assez particulière. Et
C'est un peu la petite boutique des horreurs qui est devenue une grosse entreprise.
c'est ça, voilà, tout à fait, c'est le business très très corporatiste, très capitaliste, on va dire.
Mais non, c'est une entreprise familiale, voyons, et il fait ça pour la bonne cause et tout, le petit pépère.
Ouais. Donc on va vite apprendre qu'il est coté en bourse, hein, le pépère, hein, comme
Oh,
les
mais il a le
autres,
droit,
qui doit
écoute,
rendre des comptes à ses actionnaires.
il a aidé la communauté,
En
je veux dire, voilà, c'est bon, il a le droit, hein.
tout cas, ce numéro 4 est très bien parce que comment dire, il s'attache, enfin, il est du point de vue d'un personnage en particulier qui n'est pas le protagoniste pour le coup, le principal héros de l'histoire, il nous présente ce personnage, plus principalement ce personnage, et qu'est-ce qu'il fait là, tout simplement, quels sont ses antécédents, et c'est vraiment super, et surtout ça rajoute des vraiment une grosse intrigue supplémentaire, quoi. Donc c'est cool, quoi.
Très bien. Enfin, je me suis arrêté au 3, donc décidément pour moi c'est l'émission où je me suis arrêté à l'épisode d'avant. Donc je vais rattraper ça là, peut-être tout à l'heure, tiens, avant de dormir, ça fera une bonne lecture. Plutôt que de continuer Justice League Odyssey, je vais plutôt me faire ce numéro-là. Et ah bah je suis content d'apprendre que c'est toujours aussi bon. Voilà, vraiment un titre. Alors si vous avez aimé Tony Chu, allez-y. C'est vraiment c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, je veux dire, c'est vraiment dans la même lignée. C'est peut-être un cran en dessous de Chou, mais. Et vraiment.
Après, Chu, on reste sur toute une série, donc.
Oui, et puis alors, c'est une discussion que nous, on a eue en dehors et avec d'autres gens aussi, mais quand tu vois la qualité du titre, que vraiment, on retrouve plein de choses, vraiment des tics d'écriture, jusqu'aux tics d'écriture qu'on avait dans Chou, et même dans les thématiques, la famille dysfonctionnelle, c'est quand même une grosse thématique de Chou, et que tu vois en plus, j'ai oublié le nom du titre que fait à côté John Lehman. En ce moment, tu te dis, mais John Lehman sur Chu, il faisait quoi? Parce que on a presque l'impression que Rob Guillory dessinait et écrivait Chu, quoi.
Ben ouais.
Il devait vraiment partager une partie de l'écriture, parce que John Lehman, non, pardon, Rob Guillory, vraiment, bah, il a un talent d'écriture et voilà, je ne sais pas si c'est Lehman qui l'a inspiré ou si vraiment c'est la fusion des deux Chu, mais tu m'aurais dit qu'il y avait Lehman sur Farmhand, je l'aurais cru, quoi.
Je suis d'accord avec toi.
Bon bah ouais voilà donc Farmland, j'ai pas lu Farmland 4 mais je vous le conseille quand même. Voilà, allez-y, c'est de la bonne. Et puis au niveau des reviews, bah ah, il nous reste il en clôturera l'émission sans doute là-dessus. Notre petite review plaisir, vraiment. Et là on peut bien en parler, on va en parler encore pendant 1 heure, voilà, comme ça Combeignet écoutera l'émission, il n'en pourra plus. Le nouvel épisode de Mighty Morphin Power Rangers. Le numéro 31, le numéro qui suit les événements cataclysmiques de Shattered Grid, le numéro qui pour nous s'annonçait comme un cataclysme parce que ben, je parlais de Marguerite Bennett avant, c'est elle qui arrive ici au scénario avec des dessins de Simone DiMeo, voilà aussi des changements au niveau des dessins. Et donc Arc qui, mine de rien, on peut lui laisser une chose d'emblée, c'est que ça reprend totalement la suite de ce qui s'est passé avant, puisqu'on se retrouve avec une équipe totalement changée. Ici, on a la Kimberly alternative, celle qui a son costume qui fait un peu méchante, quoi, la Kimberly badass.
La Kimberley de la comment dire de la réalité de Lord Dracon, quoi.
Voilà exactement qui va rassembler une équipe hétéroclite de Power Rangers, une équipe de Rangers de différentes couleurs issues de différentes équipes, de différentes timelines, époques, dimensions, ça dépend du tas, et qui va affronter, c'est un peu les Exiles, les Sliders de Power Rangers.
C'est les Exiles, oui.
Et avec une base et tout située en dehors de l'espace et du temps, enfin, on.
Enfin, c'est plus que les exiles parce qu'ils viennent vraiment de ch chacun de leur propre réalité, quoi, enfin, leur propre univers, quoi.
Bah, les exiles aussi, hein.
Ah oui.
Il y en a certains qui viennent plutôt du futur, d'autres carrément, d'autres lignes temporelles, enfin bon, on s'en fout de toute façon, bref.
Oui, c'est.
C'est un bel assemblage. Et alors, tu en as pensé quoi de ce premier numéro?
Écoute, on avait dit qu'on n'était pas convaincu du tout par le fait de mettre Marguerite Bennett sur ce titre par rapport à ce qu'elle avait produit avant sur les Big Two et surtout pour prendre la suite de Kelly Higgins, mais on avait dit aussi qu'on allait quand même lire le numéro 31 et franchement, eh bien, j'ai beaucoup aimé ce numéro.
Ah, tu me
Voilà.
fais plaisir, c'est
Je
pareil.
trouve, franchement, je trouve que c'était super chouette. Donc, j'ai aucun, mais alors, aucun espèce de, comment dire, d'appréhension de dire que, de faire mon mea culpa et de reconnaître que Marguerite Bennett a fait du super boulot, de même la remercier pour ce numéro. Parce que je trouve que, voilà, déjà, tu vois, d'une manière générale, c'est vraiment un plot que on n'a jamais eu vraiment dans toute la continuité des Power Rangers, quoi, tu
Ouais.
vois. C'est-à-dire vraiment ce côté-là, bon, allez, on peut dire les premières pages, hein, c'est-à-dire ils sont tous, en fait, tous les Rangers sont sur Terre Aventure, quoi. Puisque Terre Aventure, c'est la station orbitale qui, alors, dans Power Rangers, l'autre galaxie, donc la cinquième série de Power Rangers en dessin, enfin en dessin animé, non, en série télé, était en fait une espèce de. Oui, de terre, enfin comment on pourrait appeler ça, d'arche de Noé dans l'espace un petit peu, tu vois.
Un gros vaisseau mère.
C'était la station orbitale sur laquelle les humains, une espèce de, une colonie, voilà, une colonie.
Oui.
Une colonie comme dans Gundam, si vous voulez, une colonie où vous avez des habitants dessus. Et voilà. Et donc là, ce qui était vachement fichu, c'est que Kyle Higgins, en fait, avait rattaché la Terre Aventure comme un projet développé par Grace Sterling, qui était la première, historiquement la première Red Ranger. Donc dans la première mission de Power Rangers sur la Lune.
Enfin oui, qu'il y avait eu des, ou tout du moins, les Rangers qu'on connaît, Jason et compagnie, n'étaient pas la première équipe que
C'est
Zordon
ça.
avait créée. Et bon, sans doute qu'il y en avait eu d'autres avant, mais on découvrait que dans les années 60, il y avait déjà eu une équipe et c'était une des seules survivantes.
Voilà, et elle avait en parallèle donc pour éviter ses elle avait cette comment dire, elle ne voulait plus travailler avec Zordon puisque finalement elle considérait que c'était quelqu'un. Et d'ailleurs, ce qui se rapprochait un peu d'un plot qu'on avait dans le film, hein, Power Rangers, c'est-à-dire que finalement Gordon était quand même un petit peu hypocrite sur les bords et envoyait quand même des jeunes adolescents quand même comme enfin au feu comme de la chair à canon, quoi. Et j'ai même envie de dire avec le même la même hypocrisie, tu vois, un peu idéaliste de Xavier dans les X-Men, quoi.
Oui, il y a un peu de ça.
Parce
Oh,
que dans les films, en même temps, j'ai envie de te dire, le Zordon, on sent directement que c'est un militaire, quoi, tu vois, que c'est vraiment fermez vos gueules, je décide, quoi. Encore, c'est carte sur table. Alors que là, vraiment, dans cette. Dans ce comics, comme dans la série animée, c'est plus. Voilà, c'est plus un gentil Zordon, mais qui, malgré tout, allait faire le boulot. Et Grace Starlin bah, ne voulait plus travailler avec lui, mais a quand même pensé à développer un projet pour la défense terrestre. Et ce qui aboutit à Terre Aventure, qui a donc servi pour la fin de Shattered Grid et pour un peu aider les Rangers après la bataille, quoi.
oui, qui ici a le nom de Promethea d'ailleurs, Terre Aventure.
Prométhéen. Donc tous les Rangers finalement de toutes les réalités sont sur cette station après la bataille. Et alors ils ont du mal un petit peu à comment dire à avoir la connexion avec la grille finalement, ce qui fait que plus beaucoup sont capables de se transformer, quoi. On sent qu'ils sont affaiblis, on sent que voilà ça devient difficile. Et en fait ils sont presque comme dans une espèce de logique à la Star Trek d'exploration pour justement trouver le moyen de un peu de trouver une solution à une échappatoire à leurs problèmes, trouver bah, revenir sur Terre ou simplement récupérer leur pouvoir. Et donc voilà, donc il y a on imagine des nouvelles antagonistes qui arrivent dans cet épisode qu'on va pas vous révéler, qui ont été largement en plus teasés sur différents panels d'ailleurs, je crois de la New York Comic Con. Et franchement, eh ben ouais. Très bon boulot de Marguerite Bennett là-dessus, quoi. Son premier numéro, moi, ça m'a vraiment envie d'aller voir le numéro 2, quoi.
Très bon dessin aussi, hein. Je suis très très fan, c'est dynamique. Ça reste un peu dans la lignée de ce qu'on a eu avant. Et Ouais, très très bon. Et je trouve que cette idée de faire cette équipe,
Hétéroclite, ouais, enfin de
ouais,
différents ouais, membres.
oui, et qui pourra voyager à travers le temps et l'espace, c'est une bonne idée parce que honnêtement, sinon on allait rester pendant 10 ans sur la première équipe de Rangers. Et faut, c'est un bon moyen de contenter, à la fois de contenter tout le monde parce que comme ça on pourra faire intervenir les Rangers préférés de chacun. Et en plus, on crée de nouveaux Rangers. Là, par exemple, déjà le Rangers bleu qui apparaît, c'est un Dino Rangers. Je crois que c'est un personnage du Sentai japonais, enfin de la série japonaise, qui avait jamais été adapté dans la version américaine, si je dis pas de bêtises.
Alors, il est dans Sentai, et de mémoire, il se peut qu'il y soit pas, ouais, dans
Non,
la
il n'y est
version.
pas, justement, ouais. C'est comme ça que ça a été vendu, ouais.
Et tu as la Kimberley, de façon, qui est la Dark
Oui,
Pink
voilà,
Ranger,
ouais.
entre guillemets, qui...
Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça permettra en plus à la fois et d'utiliser les personnages qui avaient jamais été adaptés. Et de d'inventer des nouveaux persos, quoi, d'inventer des nouveaux ordres, des nouveaux monstres, enfin,
Mais
vraiment.
ce qu'ils avaient déjà fait, de toute façon, avec le Zord, enfin le
Oui.
Mégazord de la Dark Kimberley, enfin même des idées à la fin de Shattered
Oui,
Grid, mais c'est
il y avait un ordre, un nouveau ordre qu'on nous montre à peine d'ailleurs, qu'on verra peut-être là, enfin.
les gardes de Lord Dracon aussi.
Oui, ah, ça c'était cool, ouais, le design était vraiment cool. Non, vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Bon, il y a une grosse inconnue sur l'avenir des Comics Power Rangers, vu que la licence a été rachetée par Hasbro.
Apparemment, j'ai vu récemment. Ça a été clarifié. Hasbro, en fait, ça va continuer de travailler avec Boom Studios, quoi.
D'accord, c'est Boom Studios qui garde la main dessus.
Et donc, Kyle Higgins, lui, bah, il a commencé à présenter son projet, de façon, sur la, un petit peu le fils du Green Ranger, enfin
Oui,
autour du Green Ranger.
un graphic novel situé donc dans le futur de la continuité.
C'est ça. Et on a une visibilité de façon autour du run de Marguerite Bennett. Enfin, très clairement, de toute façon, on a eu un panel, je crois. Alors, je sais plus si c'était ça ou juste une interview. Enfin, très clairement, que ce soit du côté de Hasbro ou de Saban. Bon, même plus Saban puisque Hasbro a racheté. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'on va quand même laisser les coups des franges du côté de Boom Studios. Et très clairement, Kyle Higgins, pour le coup, de ce que j'ai vu, il n'a pas l'air d'avoir envie de quitter le projet. Et il reste toujours là à chapeauter tout ça, quoi. Donc,
Ok, c'est
tant mieux.
super cool ça.
Et à noter, bon, alors sur l'équipe, hein, l'équipe de Rangers qu'il y a, en plus, ils sont malins parce que c'est quand même une équipe de tueurs, hein, qu'ils ont mis parce que ils ont mis quand même, si tu veux, des fans favorites, quoi. Genre, le Red Ranger en question, c'était Andros de Power Ranger dans l'espace. Donc, il est un peu considéré comme peut-être voire l'une des meilleures, enfin, l'une, voire la meilleure série de Power Rangers parce que dans un univers très dark, finalement. Et c'était la série qui finissait tout l'arc autour de Zordon, finalement, des Power Rangers originels. Et Andros, c'était ce Red Rangers-là, très apprécié. Et tu as le Green Rangers, qui était le Green Rangers de... donc c'était... Alors c'était Hurricane Ranger en version Sentai, enfin la version originale, et c'était Ninja Storm, voilà, Power Rangers Ninja Storm, et c'était Cam, donc le fils du Sensei, qui était devenu le Green Ranger, je crois, vers la moitié de la série, et qui était fortement apprécié des fans. Donc voilà. Et même le Magna Defender aussi, qui était un petit peu le sixième Rangers de Power Rangers de Lost Galaxy. Donc
Oui, qui est normalement il y a Extra Heroes, mais qui là est considéré comme un Ranger noir du coup.
c'est ça, c'est ça. Et qui était le frère du Red Rangers, quoi, qui était là aussi très apprécié. Parce qu'il avait une histoire aussi, un background super intéressant. Tu vois, il s'était sacrifié pour un petit peu sauver son frère et le reste de Terre Aventure. Et si tu veux, c'était un petit peu, finalement, on revenait un petit peu sur un pacte entre lui et le Magna Defender original, un petit peu comme entre Venom et Eddie Brock, quoi, tu vois. Ou Venom plutôt et Flash Thompson, quoi, tu vois. C'est-à-dire que finalement, Mike a utilisé les pouvoirs de Magna Defender d'une manière plus, comment dire, altruiste. Que le Magna Defender originel, qui était plus dans sa mission, quoi, tu vois. Entre guillemets, quoi.
Ok, d'accord. Bah, merci pour toutes ces précisions. Tiens, j'ai une autre question. Est-ce que comme moi, tu t'en fous toujours autant du backup sur Blue Centurion
Ah
et
oui.
Ninja?
Mais tous ces backups, de toute façon, depuis le début, alors autant on adore vraiment ces comics Mighty Morphin Power Rangers, autant c'est vrai que ces backups sont inutiles. Et je vous renverrai plus si vous avez envie de lire autre chose que du Power Rangers. Allez lire à la limite GoGo Power Rangers, qui reste sur l'équipe de base et qui là va introduire de nouveaux concepts avec finalement des changements de couleur entre les persos. C'est-à-dire, je crois, Trini qui passe en Red Rangers par exemple, et avec un peu cette tagline de est-ce que c'est finalement la couleur qui fait le leader ou est-ce que c'est la personne dans le costume qui fait le leader, quoi, tu vois? Est-ce que t'es un leader parce que t'es le Red Rangers ou est-ce que t'es le Red Rangers parce que t'es un leader né, quoi?
D'accord, ouais. Bon, bah, je t'avoue, Gogo, je vais totalement laisser tomber, j'ai juste lu les tie-in
C'est
pour.
moins bon, mais ça reste très correct, hein.
D'accord. Alors, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que du côté de Glénat, on n'a pas trop de nouvelles de Power Rangers. On a eu deux ou trois tomes de la série principale, on a eu la mini-série Power Rangers Pink. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose de sorti, quoi. Donc, j'espère qu'il ce serait bien qu'ils aillent au moins jusqu'à la fin du run de Kyle Higgins. Alors que les gens aient l'histoire en complet, parce que ce serait vraiment dommage que ça ne fonctionne pas. Parce que la série vaut vraiment le coup. On le dit à chaque fois, mais vraiment, très bonne série d'aventures SF, quoi.
Enfin, vraiment dans un premier temps, j'ai envie de dire d'équipe de jeunes super-héros, puis après un peu à la X-Men avec des réalités alternatives, et là, comme tu dis, hein, c'est exactement ça. On rentre un peu dans le concept SF, un peu de X-Files, un peu de Star Trek, enfin non, c'est chouette, quoi.
Ouais, bon, ben, si vous aimez les Power Rangers, tentez. Si vous aimez pas, tentez aussi. Vous verrez, c'est vraiment mieux que ce à quoi on peut s'attendre quand on voit, oh mon Dieu, un titre Power Rangers. Sur ce, ben, je pense qu'on est bon.
Ouais.
On aura fait bon, ben, on a quand même dépassé les 2 heures. Là,
Ouais.
on sera pas jusqu'à 2h30, mais on les aura dépassés.
J'étais un peu long sur mes reviews de Batman et Nightwing notamment.
Non, 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 mais ça méritait. Puis quand même, en fait, tes reviews de Batman et Nightwing, ça correspondait quand même à 3 numéros de Batman et 2 de Nightwing. Donc au final,
Ouais.
voilà quoi. Alors, sur ce, ben, si tu en as terminé, on va passer à la fin, quoi, tout simplement. Donc, pour nous retrouver, c'est très simple. On a notre Facebook sur lequel vous pouvez interagir avec nous, bien notre Twitter, notre site, comicsoffice.com. Si vous voulez nous écrire, c'est contact@comicsoffice.com ou alors vous pouvez nous joindre par les messageries de Twitter ou de Facebook. N'hésitez pas à aller sur le site, si vous voulez, si le cœur vous en dit, bah, commenter les articles. On adore ça, interagissez avec nous, partagez aussi nos articles, partagez nos publications, nos posts Facebook ou partagez-nous sur Twitter parce qu'au final, c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est grâce à ça que. D'autres gens peuvent découvrir notre podcast. En tout cas, on est toujours aussi ravis d'en faire et de partager notre passion avec vous. Hein. Voilà, on a eu, comme j'ai dit en début d'émission, quelques difficultés ces derniers temps, mais là, c'est bon, les choses vont repartir de plus belle. Le prochain Comics Office, le podcast, le 8e, bah, finalement arrivera très très vite. Le Comics Office Watching sur Venom va se faire prochainement. On verra pour faire d'autres choses. Il y a des articles que j'ai commencé qu'il faut que je termine un jour, mais
Oh, tu
promis,
sais bien
ça
faire
arrive.
l'imbécile quand
Enfin
tu veux, hein,
voilà,
Parker.
bref,
Mais
Jonathan,
félicitations.
tu vas
Mais
arrêter
Eddie
de piquer mon
Brock n'a
pauvre
plus rien à
auditeur.
voir du
Eh
tout
bien,
avec le
merci pour
Frolicuque que tu as connu avant
votre
tout ça.
écoute et
Et je crois que
vos
c'est
retours
l'instant idéal pour te présenter ma
positifs sur notre
seconde
émission.
moitié.
Comme dit Marc
Adopte,
Hessel, nous
je
encourage
suis
à continuer dans
Venom.
cette voie-là.
Oh
Et puis, bah,
non!
salut à tous! Eh oui, salut tout le monde, allez, à la prochaine, et surtout, lisez plein de comics!
Non! Je crois que tu connais cette combinaison, mais tu t'en es séparé. Et ce formidable allié inattendu que tu as essayé de détruire, Eddie Brock, lui, l'accepte volontiers. Ouais!
Nous sommes liés!
Oh, je ne m'attendais pas à ça!
Tant que l'adaptation donne un bon film ou une bonne série, c'est ça le plus important.
Par l'adaptation, tu verras Venom. Aïe, aïe, aïe.
Je vais y aller en matinée, une séance du matin, pour qu'il n'y ait vraiment personne, parce que j'ai trop honte.
Prends un bon café, hein.
Pour commencer tranquillement ma journée, je vais rentrer, je vais être vert, tu sais.
Ouais, peut-être Hulk. Bah déjà, Tom Hardy, il avait quand même balancé qu'il y avait les 40 meilleures minutes, les 40 minutes de film qu'il avait préférées n'étaient pas dans le film.
Oui, ça c'est. Bah, tu sens le mec qui en a gros sur la patate, quoi.
Mais c'est ouf quand même, parce que la promo, enfin, c'est l'acteur principal qui porte l'office, qui le porte le film qui te.
Bah, écoute, peut-être que quelque part, si derrière les gens, si derrière les critiques massacrent le film et on entend une masse de gens dire tout ce qu'on veut, c'est voir un truc plus mature, bah, ça fera peut-être réfléchir les studios, tu vois. Bon, je suis candide en se disant ça, mais.
Après, tu sais, enfin, quand je vois le film,
Même avec 40 minutes mieux de plus, ce serait pas terrible.
non, c'est que finalement, c'est pas vraiment pour gamin non plus, quoi. Tu vois ce qui se passe dedans, quoi. Donc, plus mature, bon. Par contre, faut quand même se rendre compte que si tu veux, Venom, pour 100 millions de budget, ils ont déjà quand même fait pratiquement 400 millions de dollars en box-office. Hein.
Oui, il y aura une suite, c'est bon. Il y aura du Morbius et compagnie, là.
Il est sorti qu'il y a 12 jours, quoi. Donc,
Oh
et même moins, hein, chez nous, du coup. Donc, ouais, depuis 7 jours chez nous. Donc,
là là. Et
ouais.
sorti mercredi dernier, juste.
Écoute.
Il y a 2 semaines, mercredi dernier. Bon, c'est possible, hein, c'est peut-être moi qui me trompe.
Non, c'est ça, parce qu'il est sorti le vendredi de précédent aux États-Unis, le vendredi 5, et il est sorti chez nous et ben le 10.
Ok.
Oui, c'est ça, puisque la semaine d'après, oui, et puisque le 17, c'est la sortie de Predator. Enfin, aujourd'hui, c'est la sortie de Predator. J'avais calculé comme ça.
On va aller voir des belles choses pendant les vacances. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu les Frères Sisters, quoi.
Ah bah oui, ça, c'est quand c'est un film, peut-être plus celui-là.
Alors, autant bon Venom, je vais le voir en priorité, ben, tout simplement à cause de l'émission. Et après, si j'ai le temps, plutôt que de voir Predator, en Predator, moi, la bande-annonce, elle m'a vacciné. Hein. Non, non, j'ai eu la bande, j'ai dit, c'est quoi cette merde? Enfin.
Ouais, ça a l'air. C'est avec celui qui joue Donald Pierce dans Logan, qui avait cette bonne tête à claque, hein.
Ouais, ça donne envie tout de suite, dis donc, hein.
Et qui joue aussi Murphy dans Narcos, cette excellente série Netflix.
Ouais, je sais, faut que je la regarde.
Ouf, il y a tellement de séries Netflix pour regarder. En priorité Ozark, hein, encore une fois.
Ouais, je sais.
Les deux saisons d'Ozark sont excellentes. Bunny voit un équivalent à Breaking
Ouais,
Bad.
bon, alors les avis de Benny, hein.